Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Podcast. Bonjour, c'est Jérôme Le Banner, en direct sur Légende. Merci de m'accueillir. Je vais parler un peu de ma vie. J'essaie de que ça soit pas trop plate.
Ça va ou quoi ?
Avec toi ?
Bienvenue entre deux Havrais.
Ouais, c'est vrai.
On est du Havre tous les deux.
Tu es né là-bas, c'est ça ?
Ouais, je suis pas resté longtemps.
T'es pas resté longtemps.
C'est ça que t'es en train de me faire dire.
C'est ça, bah oui. T'es pas un vrai de vrai.
Toi, t'es resté ? T'es né en 72,
hein ? 72, ouais.
Champion de kickboxing, Jérôme Le Banner, si vous le découvrez. 111 combats, on a noté en kickboxing, c'est ça ?
Je sais pas.
86 victoires, 71 KO, seulement 22 défaites. Parcours assez impressionnant. Tu seras dans le film Le Jardinier avec Jean-Claude Van Damme, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Plein de choses à raconter, mais c'est, le principe, c'est de refaire ta vie aussi, ouais. qui est passionnante. C'est ce que j'ai. T'es quand même dur au mal, toi. J'ai vu tes cicatrices tout à l'heure. T'es pas quelqu'un qui est douillé du tout.
Bah non, bah il faut. Je pense que dans le métier que j'ai choisi, la douleur fait partie de la nourriture quotidienne. Donc bon, j'ai eu plein de blessures, puis même les entraînements, c'est dur. Donc faut essayer de repousser la douleur au maximum que l'on peut.
On va se reparler de ça après. T'étais plutôt turbulent quand t'étais jeune, en 72 ou avant, on le disait, t'étais plutôt calme ou, tu vois, par exemple, Cyril Gann était dans les jupons de sa mère, il me disait, il se cachait un peu timide. Toi, t'étais comment ?
Alors, j'étais très, très... pas limite d'être, tu sais, comme on dit, les hyperactifs, Ritaline, les cachets, machin. Non, pas, j'étais à la limite de...
De ça ?
Ouais, de passer le bord. J'étais super actif dans... Par exemple, je voulais être le premier à la cour de récréation. J'ai même poussé une fille un jour pour aller plus vite qu'elle et puis d'être le premier. Et elle s'était pris la tête dans le plexi. Elle avait eu le point de suture. Ils avaient demandé à mes parents de venir.
Ah, ils ont peut-être évoqué tes parents.
Ouais,
à quel âge ?
parce que j'étais trop actif. On m'appelait Gilbert Bécaud, le monsieur 100 000 volts à l'époque. Donc Gilbert Bécaud, pour ceux qui ne connaissent pas, un chanteur.
Attends, c'était en quelle année qu'ils ont appelé tes parents ? T'étais à l'école primaire ?
J'ai peut-être 8 ans, ouais, 8 ans, 6-8 ans. Ouais. J'ai poussé la gamine.
Si vous nous écoutez en podcast audio, juste que vous sachiez, tu fais quelle taille ?
1m90.
1m90, pour quel poids ?
117 kilos.
Ouais, c'est ça, t'es très solide. Voilà, on le voit pas, si vous nous écoutez, mais que vous le sachiez, ceux qui te découvrent aussi. Tu grandis dans une famille assez populaire, assez aisée, c'est quoi ton...
Non, mon père routier.
Routier, ok.
Mon père routier, grande gueule... Enfin, grande gueule, solitaire, toujours pareil dans sa cabine de camion, grande gueule, un peu alcoolique de temps en temps, aux heures pleines, papa aux heures creuses, et puis, ouais, et puis bon, ma mère a commencé, c'était après la guerre, hein, tu sais, c'était l'après-guerre et tout ça, donc elle a commencé bon, au bas de l'échelle, dans une usine, pour finir cadre supérieur, donc c'est une bosseuse, ma mère.
C'est elle qui était plus sévère que ton père, finalement ?
Ah ouais. Ah ouais, c'était le furor.
C'est vrai ?
Ouais.
Tu l'appelais comment, ta mère ?
Le colonel, l'adjudant-chef. Non, c'était vraiment quelqu'un de... C'est une dame, tu sais, mais 75 déjà. 75, déterminante. Et puis, bon, je me rappelle, quand j'étais gosse, elle avait... On levait un rein, donc elle est dialysée.
OK.
On lui avait mis un rein, on lui avait fait une greffe de rein. Et à un moment donné, elle devait être une semaine sans boire, parce qu'elle était gonflée. Et je me rappelle, elle happait la buée des femmes de ménage qui faisaient le carrelage de la chambre. Et non, c'est une femme, franchement.
Et elle a eu d'autres enfants ou elle...
Non, que moi, justement. Déjà, elle a des problèmes de santé. Et puis, malgré ça, et puis, à un moment donné, elle voulait en avoir un autre. Elle avait été voir le docteur traitant, enfin, le pédiatre. Hein,
le pédiatre,
ouais. Et puis, elle avait dit, moi, je touchais tout. Sur le bureau, je touchais tous les trucs et tout. Et ma mère avait dit, j'aimerais avoir un autre enfant. Et le docteur, il l'avait regardé, il a dit, celui-là, il compte pour 10. Pour votre santé, ça ne sera pas bon du tout.
Elle n'avait pas tort, finalement. Enfin, oui, il n'avait pas tort, mais...
Ouais, c'est vrai.
Et elle aimait les sports de combat, ou ton père aimait les sports de combat ? Il y avait un rapport dans ta famille, dans ton éducation, ou rien à voir ?
Mon père aimait les sports de combat, il avait fait la boxe anglaise. Je l'ai entendu parler que ma mère voulait pas que je continue parce que il faisait les, ce qu'on appelle les troisième mi-temps lors de, c'était des balles à l'époque, tu sais, danser. Et donc mon père avait pas la danse, donc picolait un petit peu, machin, et puis la fin de la troisième mi-temps, bah il la faisait, il est connu avec les garçons qui regardaient trop, enfin qui étaient trop proches de ma maman.
Ah, il était plutôt bagarre.
Ouais. Tête de con quand il buvait.
Ah ouais.
Ouais. Breton, tête de con.
Peut-être après à l'école, tu t'es fait harceler un peu, t'étais seul.
Ouais. J'étais seul. Parce que moi, j'étais du Montguerre, comme un certain.
Ouais.
Toi. Et en fait, après, donc, j'étais en nourrice, parce que ma mère travaillait jusqu'à tard le soir. Donc, j'étais avec la nourrice, et puis, donc, j'étais dans un quartier que je connaissais pas trop, quoi. Puis, que ma nourrice de l'époque, enfin, qui était. Que j'ai conduit d'ailleurs jusqu'aux portes du paradis, j'étais tellement turbulent pour. Que ma mère n'arrivait pas à trouver une nourrice, donc elle a eu...
Ah oui ?
Ah ouais, je mettais les claques au game.
Mais non.
Ah ouais. Puis j'en ai même mis une, j'avais entre 10 et 24 mois, je l'avais mis en... c'était une amie à ma mère, j'avais tellement rétamé, elle était partie en maison de soins, tu vois, parce que j'ai...
Ouais.
Ah ouais, je bougeais partout pour lui dire, non, qu'est-ce qu'il va arriver, quelque chose, dans les marches, oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Je montais, je prenais le bain, enfin je retournais dans l'eau du bain, enfin écoute, tout gamin, tu sais.
Ouais, un gamin.
Et donc hyperactif, quoi.
Ouais,
et donc
énergique.
Et quand j'ai vu cette dame là, j'ai ouvert les bras, puis c'était le coup de foudre. Ma deuxième maman.
C'est marrant.
Madame Sauce. Et puis donc quand j'étais dans ce quartier là, elle est tellement peur qu'il m'arrive quelque chose que dans ce quartier là, moi j'ai le droit d'aller à l'école, de revenir, puis de pas bouger. Donc je jouais pas les.
Et pas trop de copains à l'école.
Pas de copains.
À l'extérieur.
Pas du tout.
T'étais plutôt solitaire ?
Bah,
volontairement ou
Non, par le biais des choses.
Ah oui ?
Ouais.
Et t'étais plutôt...
Je n'aimais pas trop, à la limite, après, quand il a fallu jouer au foot, j'ai jamais fait un match de foot de ma vie, avec des gosses.
Ah bon ?
Jamais.
Putain, c'est vous ?
Parce que je ne sais pas jouer, parce que j'ai pas l'habitude, et puis... non, j'étais le...
Et rejeté. Mais tu te faisais emmerder ?
Non.
C'était méchant avec toi, ou il te laissait...
Il y a eu quelques mecs.
Mais ça, tu te laissais faire ou...
Non, j'essayais de me défendre, mais bon, à l'époque, tu sais, je faisais un peu de judo à 6 ans, parce que donc, quand j'ai eu poussé cette petite gamine à l'école, mes parents m'ont mis au judo, avec monsieur Jean-Claude Kélian, qui était Arbeitsnel, tu vois. Ouais. Et donc, gros sens de la compétition. Donc après, quand je me suis emmerdé, tu sais, c'était la loyauté, le courage, pas taper l'autre, hein, donc c'était ce truc à la con. Là.
Au judo, ce que t'as besoin.
Ouais, au judo.
Oui,
ouais.
C'est l'inverse de ce que t'as.
Ah, bah oui,
ce
donc,
que tu peux avoir besoin avant.
Voilà, et donc bon, bah. Puis le mec était plus grand que moi, quand même, tu vois. Moi, j'étais grand par rapport à mon âge, mais j'étais jeune, j'avais 12 ans, mais je faisais déjà 1m80, tu vois. Donc le mec, il me faisait chier, donc. Monsieur Roussel.
Putain. Et après, tu t'intéresses au sport de combat, donc tu dis judo, etc.
Ouais.
À quel moment t'en fais un peu plus Pas professionnellement, mais
décision. Deux, trois entraînements par semaine. Compétition le dimanche, souvent. Parce que ça tournait beaucoup à l'époque. En fait, c'était... Il y avait David Douillet, mais après, il y avait M. Camus, je crois. Enfin, il y avait des grands noms qui faisaient que... C'était comme le foot version arts martiaux, quoi, tu vois. Donc, c'était comme... Il y avait un roulement de compétition.
Tu regardais des films ? Qu'est-ce qui te donnait envie ?
Ah non, j'étais obligé. J'étais obligé, à 6 ans, d'aller... moi, je me rappelle, je jouais le dimanche matin, je voulais regarder Winnie l'ourson. Non, tu vas...
Ah oui ?
Je suis obligé d'aller à la compétition. Ouais, ouais.
Putain.
Je faisais un entraînement le dimanche, une compétition. Petit QVI, grand QVI, tatatat.
Tu t'accrochais des coussins à un
arbre. Ah, ça, c'est après, ça.
Ça, c'est plus tard.
C'est plus tard, ouais. C'est l'âge de 14-15 ans, 16 ans.
Donc là, tu fais du judo toute ta vie ?
Jusqu'à 14 ans.
Jusqu'à 14 ans.
Et à un moment donné, j'ai un peu cette...
T'es bon quand même ?
Ouais, je suis bon. Je suis comme pas mal. Ouais.
T'es ceinture quoi ?
Ceinture marron.
Ah oui, donc.
Ouais, 14 ans. Voilà. Après, donc, je veux faire le karaté parce que je suis tombé sur le film de Bruce Lee.
Ah oui, donc c'est un film quand même qui va te donner
envie
plus tard.
Voilà, je me dis, tiens, ouais. Une voix dans ma tête qui me dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ah, ok.
Le karaté de chauffe ?
Karaté de chauffe.
J'y vais.
Et là, il est toujours pareil, arrêter le coup, tout ça. Et puis il y a l'essor de. Là, on est en plein dans la boxe américaine. Boxe américaine, truc de quartier, un peu, les survêtements tactiles, tu vois, tatatat. Et puis les bananes, les mecs qui veulent se battre, c'est l'époque des Redskins, tout ça. Donc, et on me disait, non, faut pas faire ça. Mais moi, on dit, non, faut pas le faire.
Toi, t'y vas ?
Eh ben, j'y vais.
Et tu pars, donc, tu vas faire quoi de la boxe ?
À 18 ans, je signe, je prends ma licence. Parce que ma mère ne voulait pas que je fasse de boxe, quelle qu'elle soit, avant les 18 ans.
C'est normal.
C'est normal.
Une maman, elle n'a pas envie de voir son enfant se faire taper.
C'est ça.
Après, on comprend quand on est parent.
Je comprends.
T'as pas envie de voir ta fille, ton fils,
ouais,
toi,
non,
te battre, même si c'est son...
Non, je trouve que ça m'a donné des vraies valeurs. Toutes ces années, ça m'a donné, bien sûr, des grosses, grosses valeurs. Le courage, la détermination, la résilience.
Les gens de podcast.
Et tu vas commencer à 18 ans, du coup, ouais. Vraiment, la boxe, comment ça se passe, au début?
Bah donc, j'attends ce mois de septembre. J'aurai 18 ans au mois de décembre, donc je m'inscris dans une salle de boxe américaine. Et puis, trois semaines après, je m'inscris à la Porte d'Orléans, ma première compétition de light contact, où est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre au KO. Et puis, bah, forcément, le KO arrive. Et, donc là, je me fais virer. Enfin, virer. La compétition claque.
Parce que tu tapes trop fort.
Parce que je tape trop fort.
À l'époque, déjà, tu étais très puissant.
Ouais. Pas, non, puissant. Bah,
Parce que pour arriver à mettre KO quelqu'un, il faut quand même taper.
Mais c'est des faut petits bien gants, taper. Des bam, tu vois, donc c'est. Petit gant, hop, et puis bon, c'était pas, le mec a pas été KO, mais touché, on est pour là de toucher au visage, par exemple. Le light contact, léger.
Et donc là, tu vas faire ça pendant jusqu'à tes 18 ans
Donc 18 ans, quelques mois. Toute mon année de 18 ans. Et puis après, à 19 ans, bah, 19 ans, je change de club. Et là, je suis dans un club du Havre, un peu brut, tu sais, près de la gare. Le footboxing club du Havre.
Il y a un journaliste qui te repère, c'est à ce moment-là.
Ouais.
Pour Karaté Bushido, qui aujourd'hui est très fort aussi sur YouTube, ils font beaucoup de vidéos. On a eu Greg MMA d'ailleurs qui est sur Karaté Bushido.
À l'époque, le monsieur s'appelait Pascal Iliki. Il est au ciel. Et lui,
C'est lui qui t'a repéré ?
C'est lui qui m'a repéré.
Et il te met en
relation avec Jean-Paul Maillet. Et Jean-Paul Maillet, relation avec le Japon, le K1. Il leur faut enfoncer.
Le K1, c'est la grande compétition.
C'est l'UFC du Québec.
C'est l'UFC, exactement. C'est l'équivalent de l'UFC aujourd'hui.
Même encore maintenant, les gens disent que. Le K1 et le Pride, ça, l'ambiance était beaucoup plus spectaculaire que l'UFC.
Ah oui?
Ah ouais. C'était des chefs d'orchestre qui venaient, la symphonie, on arrivait en hélicoptère, on arrivait dans des grosses nacelles.
À l'américaine, quoi.
Même pas, non. Même les Américains arrivent encore à faire ça aujourd'hui, hein, j'excuse.
Ça, c'était en Asie.
Ouais.
Au Japon, tu vas devenir très connu au Japon. Tu as vraiment explosé là-bas, tu as devenu une superstar, on va l'expliquer après. Tu arrives pour le K1, mais comment ça se passe? Tu es tout jeune encore à l'époque?
Ouais, je suis avec Pascal Iliki. À l'époque, je m'entraînais avec un mec qui s'appelait Robert Ritt de Rouen.
Tu connais personne?
Je connais personne.
T'es français? Tu parles pas japonais?
Je connais personne. Et là, je vois tous ces mecs arriver. Il y avait des formes d'équipe, tu sais. Les camps d'entraînement, les Hollandais connaissaient ça, les mecs d'Afrique du Sud, les Allemands. Moi, j'arrivais, je connaissais personne. Tous avec les mêmes tenues. Nous, avec mon pote, on avait des tenues différentes.
Mais tu signes un contrat, t'es payé. Comment ça se passe? C'est pour comprendre vraiment financièrement.
Ouais,
ils te trouvent un appartement.
1500 balles, je crois. 1500 francs ou 1500 euros. J'ai plus 1500 dollars. 1500 dollars.
T'as un appartement? Enfin, tu vas vivre?
Non. Ils disent voilà, vous avez Jean-Paul Maillet dit appelle Pascal Iliki. Ton pote, là, le balai, il peut prendre des skis, il peut prendre des coups de pied dans les jambes. Il dit ouais, des low kicks, ouais, je pense. Ouais, attends, il vient du full contact, le mec. C'est-à-dire que le full contact, on pouvait taper au-dessus, above the waist, au-dessus de la ceinture. Et il dit oui, t'inquiète pas. Donc j'ai eu 3 mois pour me préparer. Non, deux mois. Donc j'étais chez Robert Ritt de Rouen. Je prenais le train tous les jours. Même je dormais là-bas. Et puis à fond pendant deux mois. Et puis je suis arrivé donc au Japon. On arrive avec Pascal.
Tu te prépares pour un combat, quoi.
Je joue pour un combat. Et je me rappelle, on arrive au Japon. Et c'est ce que je dis à un certain Sébastien tout à l'heure, c'est une autre planète. J'arrive là et je suis. Oh.
Pourquoi? Qu'est-ce qui change?
On sent dans leur façon de faire, rien que le fait de prendre un objet, et qu'on est différent, ils prennent le temps. Il y a un code d'honneur. Il y a une propreté. Il y a une.
Il y a des règles.
On en parle tout à l'heure, mais oui, des règles, oui. C'est que des règles. C'est des robots. Amine, déjà même, c'est des robots.
C'est limite trop, tu trouves?
À un certain moment donné, oui. Maintenant, quand tu vois ce qui se passe en France, non.
Oui, ça permet de régler quand même plein de problèmes.
Ouais. Il faut rigoler les gens qui disent on a pris 15 ans. Faites 15 jours de garde à vue japonaise, là on en reparle.
Parce que la justice au Japon, elle est beaucoup plus sévère qu'en France.
Oui, c'est-à-dire que nous, les juges, les magistrats mangent ensemble, même avec des grosses têtes. Donc c'est tout, c'est comme quelqu'un, je sais pas, j'ai vu dernièrement qu'il a tué la mère devant, il a une fille devant la mère, machin. Le mec est dehors parce qu'il a un vice de procédure. Mais au Japon, mon pote, il n'y a pas les droits de l'homme, s'arrête à la prison. Moi j'ai appelé des gens j'ai une amie qui a eu un gros gros problème, on en parlera, mais et l'ambassade française.
Il n'y a pas longtemps.
Il n'y a pas longtemps, il y a un an.
Raconte si tu veux pour comprendre. Ouais.
On est au Japon, je suis avec une amie et un jour elle n'en parlera pas même si elle a envie. Je pense qu'elle créera même un bouquin. L'altération avec ce que je peux, un philosophe qui s'appelle Foucault sur le l'incarcération. Et aussi l'altération de la pensée et tout ça, parce qu'en fait, quand t'es dans une prison japonaise, tu c'est même plus le sol, t'es vide. Il te vide, c'est une torture psychologique, aussi bien physique que psychologique. Tu comprends que Carlos Ghosn, il s'est barré, je comprends.
Ah, est-ce que c'est horrible?
Ouais, voilà.
Et qu'est-ce qu'il a fait?
Et elle, en fait, elle est insomniaque, et elle pose, à chaque nuit, en allant acheter un petit truc au drugstore du coin, là, qui est ouvert toute la nuit, comme tout au Japon, et il y a un distributeur de boissons, et elle pose le sac de 682 grammes sur une poubelle.
Pourquoi 682 grammes?
Parce qu'ils l'ont pesé, parce qu'elle a eu deux semaines de garde à vue.
Un sac poubelle avec des
saletés.
Avec des saletés.
Okay. Pas trier.
Des ordures.
Des ordures, puis une petite clope sur le côté.
Allez, jette une clope par terre.
Jette une clope.
Ce qui ne se fait pas là-bas.
Ah, bah non.
Et ce qui n'est pas plus mal, en vrai.
Ah, bah non, c'est clair. Là-bas, il n'y a pas de crotte de chien. Ouais. Les femmes peuvent se sortir à n'importe quel moment de la nuit, de la journée, comme elles veulent.
Ouais, c'est plus sûr, quoi.
Et donc voilà, donc on sort de l'appartement, ils nous invitivent, deux personnes âgées japonaises. Je suis au Japon, puis j'ai été 150 fois là-bas, et je vois qu'ils commencent à nous.
Ouais, c'est pas habituel.
Ah non, c'est pas habituel. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Oui, c'est vous. J'ai dit, vous à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, donc là, ils me font la poubelle. Et il nous fera une photo. Je regarde, je dis, mais c'est toi, Coralie de... Je dis, c'est toi, qu'est-ce qui... Et donc, il explique, une photo, deux photos.
Il prend
une
photo?
Eh ouais, parce qu'en fait, il y avait un petit distributeur de boissons et une caméra au-dessus. Et donc, il la prenait en photo toutes les nuits, au matin, quand le matin se lève, très très tôt.
Pour retrouver la personne qui a mis le sac.
Donc, à un moment donné, à vous reprendre la photo, le monsieur dit non. Il se tiraille un peu, à toi, à moi. À un moment donné, il lui fait vraiment mal à l'avant-bras et elle lui met une petite pichenette. Hein. Bah, ils ont appelé la police et elle a pris 15 jours de garde à vue. Nous, moi aussi, j'étais en...
Ah, toi aussi?
Ah, ouais, enfin, moi, j'ai pas fait de garde à vue parce que... parce que j'avais... Enfin, voilà, parce qu'à un moment donné, la dame voulait prendre son sac, j'ai rattrapé la dame avec le sac, la dame voulait pas lâcher le sac et j'ai senti, qu'à un moment donné, si je tirais trop le sac vers moi.
Elle est tombée.
La dame, elle est tombée. Et là, je me suis dit, oh là là, bon. Parce que je connais le Japon, ça fait longtemps. Et donc, la police vient, l'interprète arrive, il dit, attendez, mais pour un sac, une pichenette, le mec, il n'y a même pas une petite pente rouge. Et le mec nous, en France, mais du côté, monsieur le bonheur, vous êtes libre de repartir chez vous quand vous voulez. Vous avez fait 15 heures de vol. Il y a 7 heures de décalage horaire. Chez vous, là où vous dites, là, en France, on peut égorger des professeurs, on peut brûler des mairies, brûler des bibliothèques. Chez nous, je vous dis, si ça serait même pas arrivé, on aurait brûlé une poubelle, une poubelle ou un début de magasin, on tirerait à balles réelles. Donc retournez dans votre pays de merde.
Ah, tu dis ça?
Ah, mais comment on dit ça? Retournez dans votre pays de merde. Votre ami, là, va être là-bas, et puis on vous fera signe quand ça va sortir. Mais partez chez vous, parce que ça va prendre peut-être un peu de temps.
C'est vrai.
Ah ouais. Je suis là, vraiment. Et à un moment donné, il y a un Malien français, enfin, qui parle français. Et je lui donne de l'argent pour qu'elle puisse repartir au cas où elle sortirait en taxi. Mais le mec, il se change. C'est-à-dire que dès que je lui donne de l'argent, il y a des Japonais. Puis non, il m'a donné. Oh, je dis putain, merde. On est...
Il avait peur d'être pris comme un.
Parce que le fait que je lui donne de l'argent.
Un pot de vin, genre.
Que j'ai les autres japonais regarder comme ça, tu sais.
Ça fait soudoyer un peu.
Ouais, et comme il fallait parler en japonais pour que les autres comprennent, il y avait aussi ça, c'est l'incompréhension des japonais. Waouh. Et le mec, et je l'ai revu le lendemain matin, parce que le lendemain, ils nous ont reporté à l'appartement, le lendemain matin, pas 6h30 comme en France, mais 8h, papa, et vous nous recevez, votre ami, on va lui parler un petit peu de la messe, là. Et donc, elle a pris 15 jours, parce qu'elle a même pu prendre. Plus cher que ça. Et là-bas, c'est des gardes à vue, c'est pas. Garde à vue, c'est un néon toute la journée, 24 heures sur 24. Tu te laves une fois par semaine, t'as deux bols de riz, un peu de miso soupe, et tu fermes ta gueule. Ça m'est arrivé de jeter un chewing-gum, machin. Je te dirais, quand j'allais aller voir au parloir, parce que c'est un parloir, hein, avec un avocat, un traducteur, tout ça. Heureusement, j'avais des copains là-bas. Et c'est l'enfer. Hein. Même à un moment donné, j'ai pété un plomb. Et donc, les gens de mon équipe ont dit, écoutez, ils ont appelé mon boss, ils ont dit, on a un problème avec cette personne-là. Si vous voulez pas qu'on ait un autre problème avec Jérôme, parce que là, ça, parce que les gens, je ne peux plus les voir. Je ne peux plus parler les Japonais, les machins. Je gueulais, il faisait 45 degrés, le béton... Le béton qui retient la chaleur toute la journée, tu sues, tu fais une heure et demie de métro pour aller la voir, revenir, appeler les gens, dire pardon aux gens. Dire pardon aux gens à qui on a eu l'intercation.
T'es allé leur dire pardon?
Bien sûr. Obligé. Donner des ronds.
C'est vrai?
Ouais.
Pour qu'ils enlèvent leur plainte?
Au départ, déjà, Gomenasai. Voilà.
Chacun son tour, c'est ça?
Non, mais que moi. Et là, je vais vous leur dire, même pour... Là, je vais prendre l'avocat. L'avocat leur dit, écoutez, M. Banner, quand Fukushima était là pour donner de l'argent, faire des donations, donner de manger aux gens à Fukushima et tout. Ils étaient un peu... On va dire, je pense que non, on a fait les cons, et voilà. Et donc, Gomenasai, excuse, lettre d'excuse... Pour qu'il puisse en retirer la plainte, sinon.
Elle était partie.
Elle était partie pour 3 mois. Mais là, moi, non, mais tu. Et je peux dire que quand tu ressors.
Elle a été abîmée des 15 jours?
Psychologiquement morte, oui.
C'est vrai?
Morte, oui. Tu taffes pas, ils te prennent pour de la merde.
Ils n'ont pas le droit de parler dans toute leur peine?
Ah non, non, t'es là, tu peux pas te parler avec tes.
Avec tes collègues,
de détenus, non. Une a pris 6 mois parce que son. 6 mois parce qu'elle avait volé une barquette de. De poulets qui l'ont retrouvé 2 jours après avec les trucs de vidéo.
Ah putain!
Ah non, c'est long. C'est pour ça que la voix. Ils ont dit, monsieur Manner, vous avez déjà vu des grosses altercations dans la rue, des batailles, de la violence et tout? Vous avez déjà vu ça?
Au Japon? Non,
non pas. À part Yakuza à l'époque. Maintenant, c'est les Hongarais, c'est encore autre chose. Mais sinon, oui, alors, ils vont faire la une des journaux télévisés parce qu'il y a quelqu'un qui a volé un slip. Un slip à une voisine, il a pris un slip, ou une plante verte, il a pris une plante verte dans un bac municipal. Et là, ça fait les gros titres. Ah non, mais là-bas, c'est ça, le bien vivre ensemble. Et je peux dire que moi, j'ai eu un pote, il a pris 6 mois, il a perdu 30 kilos, ils te font une torture psychologique. Et là, ici, on pourrait pas, parce que, c'est pas bon.
Voilà. Au Japon, il y a même eu une fois un JT qui a commencé par le patron de l'équivalent de la SNCF. Tu connais cette histoire? C'est sur Internet. Hein. Il est assis à côté de l'animateur et de l'animatrice, je ne sais plus trop, et pour s'excuser publiquement et personnellement des 2 minutes de retard qu'il a eu le train. C'est la première fois qu'il y a un train en retard au Japon.
Ça, c'est un peu trop.
Voilà. Et là, il est là, il s'excuse auprès de tout le monde, etc. Machin, et puis elle le regarde un peu limite méchamment et tout. C'est quoi ce truc?
On les sent comme stressés. C'est-à-dire que tu as un grand boulevard, c'est le Champs-Élysées, avec un feu au milieu, un nu foche. Pour situer un peu le truc, tu vois. 2h du matin, tu regardes à droite, il n'y a pas une voiture à moins de 300 mètres. Pareil par là, il n'y a personne. C'est rouge, ils ne bougent pas.
Ah oui, ils attendent. Ah,
non. Et moi, c'est... Mais, amis, voilà.
Ouais, non, mais en fait...
Voilà, bon, tu vois, c'est là où...
Mais après, tu te plies et tu fais pareil.
Oui, exactement.
On va en parler de ça après, c'est intéressant, même par rapport à aujourd'hui, même à l'éducation et tout. Enfin, on peut juste en parler en 2 secondes, etc. Mais l'éducation... toi, tu penses que ça manque de sévérité? On pense comment on pourrait améliorer? Toi qui as vu un peu le système japonais, est-ce que... tu vois, on parlait de maison de correction, avec un invité qu'on a eu, Michel, qui a été abandonné à l'époque dans la forêt. Si vous voulez voir l'émission, elle est géniale aussi, qui a survécu à 5 ans dans la forêt. Il est parti en maison de correction quand il a été rattrapé.
Ouais.
Et en France, il disait que c'était très, très dur, etc.
Ouais.
Toi, tu serais pour remettre des trucs comme ça?
Grave, même pire. Maison de correction pour... Là, c'est un nom de super correction. Et que t'as pas le droit de... Y a pas le droit, les Ligues des droits de l'homme... Moi, je serais...
Oui, c'est...
Ah ouais. Parce que pour... Quand quelqu'un perd quelqu'un, parce qu'il l'a tué, là on voit des OQTF, des machins, des trucs, qui tuent des gens. Putain, la personne qui enterre son enfant, elle prend perpète.
Bien sûr.
Parce que moi j'étais dans plein de pays où je sais pas mon visa, mais tu dis, ils te prennent par la peau du cul, ils te virent. Aux États-Unis, tu prends un ticket alors que tu n'as pas le droit d'être sur le territoire, mon pote, tu vas, tu te fais des 3 semaines à moi en car city, tu vois. Et puis là, je dis, tu piles pas un mot. Hein.
Tu penses qu'il faudrait beaucoup plus de sévérité?
Bien sûr. On oublie, oui, le pays des droits de l'homme, oui, mais quand tu as des droits, tu as des devoirs. Fuck you. Voilà. Tu as des devoirs. Donc ça, on oublie. Donc les parents, ils viennent là, machin, on fait même le truc des enfants. Mais non, si on devrait même pas avoir un droit d'avoir des enfants. Mais des fois, tu vois des gens avoir des gosses. Mais tu te dis, putain, on est lâché, mais tu te dis, hé, mec. Oui, alors, il y avait le truc de les allocations familiales, là. C'est pareil. Quelle connerie. Pas pour moi, c'est une grosse connerie.
De quoi, des allocs, tu veux dire?
Ouais, le truc d'avoir des enfants, ton enfant. Il y a un moment où est-ce que tu on peut pas. Mais dans les HM, il faut avoir une maison. Alors quelque chose où ils peuvent au moins s'épanouir.
Courir, tu vois.
Bah ouais, courir et tout. Non mais, on met des gens dans des cages de lapins. Mais c'est. Non. Pas pour moi, ça. On marche sur la tête, de toute façon.
Toi, tu détestes l'injustice
je déteste ça.
Ta jeunesse même.
Je déteste ça.
Souvent, il y a un truc de combattant où tu as envie d'aller défendre inconsciemment.
Ouais,
tu vois ce que je veux dire.
Moi, tu mets les deux gosses là contre le Philippe, là. Et je leur mets le nez dans le cerveau. Je les éclate. Et le gamin.
C'est un jeune de 22 ans qui a été tué à Grande-Sainte.
Ils sont violents, qu'on me les donne. Je les fume.
Ça t'est jamais arrivé dans la rue de pouvoir, grâce à ta puissance physique, sauver quelqu'un?
Oui, deux ou trois fois, ouais.
Aider quelqu'un
Ouais, en boîte de nuit. En boîte de nuit, quand on sortait, à une époque où je sortais comme pas mal, où je chantais, ça, tu sais, tu le sens, moi, généralement, j'étais
parti. L'ambiance,
ouais,
électrique,
ouais, tiens, deux, trois mecs, là, ils vont chercher les gonzesses, machin, je le sens. Puis on était, hop, puis comme des chiens dans les voitures, ça manquait pas. Bing. Bon, il y a peut-être aussi parce que c'était aussi pour régler une partie de l'injustice, aussi, peut-être aussi, pour en découdre aussi, donc c'était peut-être pas bien non plus, mais quand même, le résultat était que, voilà, on avait permis à deux, trois personnes de finir une bonne fin de soirée.
Ouais. Parce qu'il y a un moment dans ta vie où t'aimais aussi te battre, il y a un vrai truc.
J'aime toujours. Pas me battre. C'est pas me battre, j'ai pas envie de taper quelqu'un pour nothing. Pour rien.
Oui, bien sûr.
Non, c'est de dire, si ça peut servir, voilà, tant mieux. Ouais. Et en fait, non, ça m'arrive.
T'as jamais tapé quelqu'un pour le plaisir?
Ah non, jamais d'avis. Enfin, moi, me faire quelque chose. Ah non, jamais.
Oui, t'es un gentil qui va défendre.
Ouais, mais gentil, non, c'est péjoratif.
Non, c'est pas péjoratif.
Bah ouais, je sais plus de valeur, il n'y a plus.
Mais le problème, c'est l'inversion des valeurs, on s'entend.
Ouais, oh là.
C'est qu'aujourd'hui, on va mettre en avant les gens qui sont méchants. Mais c'est pas forcément la bonne solution.
Ouais.
C'est bien de mettre en avant aussi les gens qui défendent, je trouve.
Oui. Mais après,
le gentil, ça veut pas dire forcément le brave, le concon.
Ouais, bah, tu vois, maintenant, bah, les valeurs changent, le code change. Tu vois, on est tellement habitué à entendre des conneries de ce qui se passe, les faits divers. Ça vient des faits rituels, tu vois, des faits d'en gros.
Mais c'est vrai que quand t'es puissant physiquement, tu dois avoir envie d'aller aider au feu rouge tout le temps.
Ouais, tu peux me dire n'importe quoi au chien volant, je m'en fous. Je m'en calisse.
Tu te fais emmerder parfois, toi?
Non.
Le mec, il va te faire chier.
Oui, des fois, c'est rigolo, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas longtemps. Le mec, il me klaxonne, machin, je ressens, je dis. T'as pas choisi ton bonjour. Et regarde, puis il rigole, tu vois. Et. Non, là, ça me fait sourire.
Oui, parce qu'en voiture, on voit pas qu'il est parfois volant.
Ou de la dernière fois, c'est quand on sort de boîte de nuit, j'étais avec mon pote qui tient de la rue Côtier-Ouar. Il y a un mec, il se. 4h du matin, il me jette, moi mon pote, qui part en scooter, il lui jette une bouteille de whisky vide. Boum, on était en train de parler. Et... Non. Moi je suis pas bourré, donc ça m'a fait. J'ai pris ça comme un. J'ai pris à rigoler, et puis le mec il a essayé de me taper, m'a attrapé, par contre. Et là après, donc les gens ont éteint les caméras parce que il a morflé.
Ah, c'est vrai, ouais. Oui, t'es gentil jusqu'au moment où on vient de tirer.
Ouais, non, parce qu'à un moment, j'ai dit, t'as vraiment pas choisi ni ton lieu, ni le bon moment.
Il y en a qui ont pas ce.
Non,
ce dernier soubresaut.
Un peu de coke dans le nez, je pense qu'il y a un peu de coke dans le nez, parce qu'à un moment, j'ai mis une tarte dans la gueule.
Ouais, c'est fou, hein, qu'il y en a qui réfléchissent pas avant d'attaquer quelqu'un, à qui ils attaquent.
Et le mec, il a essayé une claque dans la gueule, il essaie de m'attraper les jambes, tu vois. Genre, bon. Ouais. Non, j'ai non. Ouais. Mais non. Pas ici, pour moi, non, du con.
Pas ici, pas moi. Ah là là. Et en même temps, ça doit lui faire du bien, c'est qu'après, il réussira peut-être plus, tu vois, à chercher la bonne personne, quoi. Et donc, On va revenir au Japon, pardon.
Ouais.
T'arrives au Japon,
ouais.
Là-bas, donc t'es surpris par ce côté carré, etc. Le combat, qu'est-ce qui se passe en pré-combat là-bas?
Donc okay, le pré-combat, ouais. Je rencontre un mec de 82 kilos, un Thaïlandais, ancien champion de Lumpini, qui avait fait, je ne sais plus combien d'années de prison, parce qu'il avait combattu, il avait mis un coup de pied, un high kick dans la tête d'un mec dans un bus, je crois. Il avait fait 3 ans de prison, tu vois, et pour se défendre, je crois même d'ailleurs, pour se dire, mais il est quand même pris de la prison, tu fermes. Et là, il revenait à la compétition, 82 kilos, non, non, un peu moins, 75 kilos. Et donc, son entraîneur, c'était le grand No Quit Davy, un grand nom de la boxe thaï. Et donc, je rencontre ce mec-là, tu vois. Et je me dis pas, ça va être facile. Oh, le premier coup de pompe, le premier shoot.
Il est très puissant.
Très puissant. Et surtout l'entrée, je me rappelle, j'avais un truc bulldog Amsterdam, un vieux sweat à capuche. Et ce qui me surprend, c'est je vois, on arrive dans un petit caracoën, hein, c'est un hall, mais il y avait 25 000 spectateurs. Et je fais ça, je fais waouh.
C'est énorme.
Je fais what the
fuck. C'est un stade, quoi.
Ouais, ah ouais. Je fais tout le monde qui a. Oh. Et il y a un Hollandais qui vient nous donner un peu la main pour le coaching, parce que mon pote était. Bon, il connaissait la boxe, mais bon, il était un peu paniqué, hein, mon pote Pascal Guiqui, le reporter de karaté Bushido, et puis on est dans le coin et tout, et je me rappelle le premier coup de pied que je prends et que je bloque avec le tibia, je fais oh, bon, c'est pas si mal que ça. parce que moi, c'est la première fois que je prenais vraiment
un gros coup.
Parce que le premier coup, parce que nous, à l'époque, kickboxing, c'était donc full contact, c'est au-dessus de la ceinture, prendre des coups de pied dans les jambes, en polo, on est pas.
Tibia genre, contre tibia, ça peut faire mal.
Tibia contre tibia, et puis là, c'est vraiment, on est en shoot, quoi, c'est pas. Bon, oui, et donc c'était le grand step, tu vois.
Comme lui, il était dangereux, il avait tué quelqu'un, tu sais.
Ah bah, il avait
tué
quelqu'un, puis c'était un Thaïlandais. Il avait des lames de rasoir qu'il avait au niveau des tibias, tu vois. Et puis il a résisté, hein. Il a résisté.
C'est-à-dire?
Et là, on a fait 3 ou 4 rounds, 5 rounds, je crois.
Donc il était solide.
Il était solide. Je pense quand même qu'il avait. Je pense qu'il devait mâchouiller, mais bref, il était. Ouais, il était fort.
Et avant, tu l'as
c'est pour des gens qui se battent.
Tu l'as eu quand même?
Ah, j'ai gagné, donc j'étais pris pour la. Pris engagé pour être dans les 8 finalistes.
Et après, les 8 finalistes, c'est un combat. C'est plusieurs combats le
dans
même soir.
Ouais.
En fait, plus tu gagnes, plus tu continues.
C'est ça.
Et jusqu'à la finale. Et si tu vas en finale, tu fais 3 combats.
Là on se qualifie. Et après, on est pour la soirée donc, du Cameroun Grand Prix. Ouais. Et là, donc il y avait 3 combats dans la soirée.
Alors, trois combats de boxe dans la soirée, c'est fatigant.
Ah ouais.
Déjà, tu ressors par indemne.
Ah ouais, puis bon, tout dépend. Des fois, ça peut se passer.
Ça dépend comment tu ressors.
Ouais, ça peut se passer très très bien, très très vite. Ça dépend aussi parce que ça commence par un loto.
Tu peux te blesser au premier coup, en réalité.
Tu peux te blesser, ouais, voilà.
Un coup de pas de chance, tu te
casses. Voilà. Et puis, tu peux choisir le mauvais numéro, parce qu'il y avait une soirée où...
Ah ouais, tu tombes sur le plus fort.
On devait choisir une boule, tu vois. Et tu dis, bah là, sur les 8, bah, tu dis, moi, je vais me mettre sur le numéro 3, le 6 va te prendre toi, et puis et voilà, on fait ça.
Oui, c'est comme une Coupe du Monde au foot.
Au début, tu tombes sur les plus durs. Si t'es à la bonne boule au bon moment, tu tournes sur le bon combat. Tu vas prendre le plus faible, forcément. Et puis moi, ça me faisait chier, moi, je prenais toujours le plus fort.
C'est vrai?
Ouais.
Tout de suite?
Ouais.
Bah, il fallait mieux coucher le.
Je suis pas calculateur, je dis. Je m'en foutais.
Tu voulais donner du show?
Ouais, je me dis de toute façon. J'aime pas trop les jeux de hasard, tout ça, donc. allez, la merde. Je prenais le 2, je me mettais à côté du 3. Hein, voilà. Et puis à un moment donné, j'ai même pas été, parce que c'était un concert de Johnny Hallyday. C'était son dernier concert à Bercy qu'il faisait. Mon pote Pascal Guy était fan de lui. J'ai dit, Donc, on fait le tirage au sort, l'endemain du combat. Il me dit, on rentre à Paris. Ils avaient mis une photo de moi, grandeur nature. Et par téléphone, je leur ai dit, je choisis tel numéro.
C'est vrai?
Après, je m'en foutais. Ouais, je m'en foutais complètement.
Incroyable.
Ouais.
Et t'es très bon tout de suite? Ou tu progresses avec les années?
J'ai une ascension très. Ouais. En fait, je pense qu'après, le lieu, de voir le nombre de gens. Les fans...
Ça te chauffe?
Ouais, ça te galvanise. Et là, tu dis, je vais vivre pour ça. Enfin, déjà, moi, j'étais un moine. Je me dis, je vais vivre vraiment de ça et pour ça.
Et dans la rue, t'as une popularité qui est comme les... Par exemple,
au Japon.
C'est comme les joueurs de foot en France, par exemple.
Ah oui.
C'est très connu.
Ouais, ouais.
Donc, t'as tous les Japonais qui viennent te voir.
Là-bas, ils aiment les arts martiaux. Ils sont baignés dans le code du Bushido.
L'Asie, en général.
Ouais, non, mais le Japon, non. Plus, le Japon, c'est vraiment... La Thaïlande aussi.
Oui,
ça arrive de voir sur les chaînes national des combats de nous, du K1. Mais non, au Japon, c'était quand même... Donc, on battait bon, le 31 décembre, il y avait 200 millions peut-être, de téléspectateurs qui regardaient ça.
Combien ?
200 millions.
Putain.
Ouais.
Ah oui.
Il y a 260 millions. Donc, on faisait, je ne sais plus, des 90% de parts de marché.
Ah oui, t'étais suivi.
Ah ouais, ouais. Bon, j'étais. On était suivi.
Légende podcast.
Et c'était agréable le lendemain de voir les gens qui viennent te féliciter. Ça doit être galvanisant.
C'est super. C'est bon.
T'as pas envie d'arrêter, quoi.
Ah bah non, tu veux te battre pour eux. Tu bats. Non. Là, tu commences à te prendre au jeu. Là, tu veux donner le meilleur de toi-même pour leur donner à eux. Parce qu'on voit une espèce de fanatisme qu'on ne retrouvera jamais. Tu en retrouves jamais autre part, dans n'importe quel pays. Et... Les Japonais sont.
Moi, ils sont.
Ah, ils to cheer you up, tu vois. Vraiment, ils aiment t'élever, quoi. T'sais. Comme ils aiment aussi te descendre. Hein.
Ah oui, quand tu perds, après.
Mais pas la française, pas l'américaine, tu sais. Non. Moi, ce que je vis, par exemple, je parle avec Cyril Gann, là, de ce qui. Les gens qui lui expliquent la boxe en prenant le café, je n'en ai pas plus, moi. Moi, j'en ai pas plus.
Tu crois qu'en France, on explique la boxe à Cyril Gann, ouais.
Bah oui, ouais, t'as dû faire comme si, putain, c'est comme ça, malin. Ouais, non, je sais que je peux. À l'époque, quand j'avais 25-30 ans, j'étais chou bouillon. Non, tu m'aurais pas parlé comme ça. Je parlais pas.
Tu pars t'entraîner aux États-Unis après en 98, un peu plus tard, alors que ça marche très très bien au Japon.
Ouais.
Pourquoi est-ce que t'as envie de partir aux États-Unis? Qu'est-ce qui t'attire de plus que t'as pas là-bas, par exemple?
Encore une petite voix dans la tête qui me dit je pense qu'il faut t'écarter du chemin japonais. Voilà. Voilà, je dis,
alors que ça marche.
Voilà, ça marche. Ça marche. Mais je sens qu'il me faut un truc.
Et tu pars avec Don Turner, qui est l'entraîneur du mec qui s'est fait croquer l'oreille par Mike Tyson, c'est ça. Comment tu te fais repérer par les Américains?
Jean-Christophe Courage. Donc Jean-Christophe Courage, à l'époque, il y avait Christophe Souzeau, tu n'as peut-être pas connu. Gros manager. Donc je fais une pub pour Walter, c'est une marque de gants à l'époque. Le mec m'a dit tu veux boxer en boxe anglaise? Je dis ouais, ça me dirait bien. Il me dit, moi je connais très bien Jean-Christophe Courage, on parle de Jean-Christophe Courage. Jean-Christophe Courage, c'était Christophe Tuoso, grosse figure de la boxe anglaise en France, tout ça, tu vois. Il dit, je vais l'appeler ce soir. Le soir même, je rentre chez moi, clac, coup de téléphone. Jean-Christophe Courage qui me dit, tu veux boxer en boxe anglaise, toi? Tu veux vraiment goûter la vraie boxe? Je dis, ouais, pas la boxe. Non, la vraie boxe. Là, elle est que les poings, dans la gueule et tout ça, pendant 12 rounds. Je ne vais pas faire de je te propose 4 rounds de boxe anglaise dans un mois et demi, dans un mois à Porto. Ouais, paf. Et donc là, ça a commencé. Donc là, j'ai fait mon premier combat contre un Roumain, je crois. Donc je mets KO au deuxième round, je crois, au troisième round. Et là, il commence à me dire, non, vous êtes trop de cuisses. Généralement, les mecs de boxe anglaise, ils ont. T'as pas le physique. Il faut plus balèze en haut, enfin plus gros. Plus de gras, en fait, et moins de cuisses.
Ouais.
Ah ben, j'ai dit, attends, ça se commande pas, ça, j'ai dit. Donc, il me dit, écoute, on va faire avec, écoute, t'as envie de... Tu aimes le rêve américain? J'ai dit, ouais. Il me dit, dans 15 jours, tu pars à New Bern, en Caroline du Nord. OK. Donc là, je pars, la première fois seul. Donc, dans un camp, t'es dans... au milieu de champs de maïs, d'avoine, tout ça, il y a rien. Black américain, what the fuck, il parle comme si que c'était une musique de rap. Et là, pour moi, c'est l'entraîneur de Christophe Tuzo et l'entraîneur d'Evander Holyfield. Donc là, tu l'écoutes. On court le matin à 6h, on va courir 3 miles every day, tous les jours. Et après, on fait les sparring, les leçons, entre 11h et midi.
C'est un camp militaire, quoi.
C'est un camp militaire. On est un baraquement, on dort tous là.
Et Don King, c'est le promoteur de Mike Tyson?
Ouais.
Qui est connu pour être un peu escroc, je crois, non?
Ouais, ouais.
Une réputation un peu sulfureuse.
Ouais, c'est, bah oui, non.
Ça va se passer...
Alors lui, ça, je boxe en anglaise, ça marche bien, et après, il veut que j'arrête le K1, et il veut que je devienne le White Hope. Il arrive, il prend le micro dans un gros combat...
Ce qui veut dire l'espoir blanc.
L'espoir blanc. Il dit... Il prend le micro, dans tout le monde, il va vous rappeler que quand j'étais une fois au Japon, j'ai rencontré ce moine qui m'a dit que je rencontrais cet homme noir qui avait le double shock power. Donc je vous ai amené Mike Tyson, celui qui avait le double choc pour un point. Mais, chose que j'ai oublié de vous dire, j'ai rencontré un blanc qui avait le double shock power, sauf mes power dans la main et power dans le pied. Je vous présente Jérôme Le Banner. Donc là, c'était... à l'Atlanta Dome, pour un combat entre Evander Holyfield, champion du monde, où il y avait même Akariès qui était venu, enfin c'était les promoteurs de boxe anglaise français qui viennent, et donc je rencontre un Brésilien, Black Panther. Et là, je mets KO, premier round sur un gros high kick. Il y a 35 000 spectateurs encore. Et je me rappelle, il m'avait présenté, il dit « vive la France, champion du monde !» Donc là, j'ai signé avec lui, le gros chèque quand même, pour un combat de kickboxing hein, à l'époque.
C'est quoi un gros chèque à l'époque?
À l'époque, c'est 300 000 dollars.
Ah oui?
Non, ouais, à l'époque. Hein. Mais 300 000 dollars, les mecs les mecs comme, à part, un mec qui était un gros, pour moi, qui était un leader, enfin, un but, c'était Dizia Diafa, qui avait des sponsors, les machins, pote avec Jean-Claude Van Damme, qui savait se vendre. Moi, je sais toujours pas me vendre. Je savais pas et je ne sais toujours pas. Et donc, le mec, Don King me dit, non, faut que t'arrêtes la boxe, là. Voilà. Donc, les mecs, alors je te dis, les mecs à l'époque, excuse-moi, je me trompe un peu, les mecs à l'époque, ils prenaient, pour des champions du monde, ils prenaient 5 000 francs, quoi, 6 000 euros. Moi, je prenais des 300 000 par combat, tu vois.
Ah, donc, t'as réussi à bien gagner ta vie.
Oui, oui, oui.
Assez rapidement.
Ouais. Et donc, il me dit, non, Japon, fini. Ah. Donc, Don King envoie des lettres au Japon, des fax à l'époque, des fax, comme quoi que quand je vais au Japon, aucun média n'a le droit de me poser de questions. Ben, les Japonais, ça va dire, ah, oh, Banasan, on n'a pas le droit de poser de questions, machin, et tout. Je suis invité toujours dans l'organisation du K1, et là, je suis en vedette, tu vois, en black market, on va dire, tu vois, je suis là, mais. Ah ouais, non, mais attendez, moi je suis avec Don King. Et là, Don King, pour eux, c'est Mike Tyson, c'est gros, tu vois, c'est huge. Mais ils ont pas le droit de me parler. Ah là, ça les fait chier. Et là, le Ishii, donc mon gros boss de l'époque, bon, qui marchait aussi, il y avait des cousins derrière, il y avait tout un truc, me dit, je veux te récupérer. Et moi, en réalité, le Japon me manque. Le Japon me manque énormément.
Quand tu dis Yakuza derrière, les Yakuza, c'est la mafia, parce que c'est pas japonaise. Ouais. C'est vraiment des violents.
Ah oui. Ah oui.
Pire qu'en France, tu crois? Pire que les mafias françaises?
Ah oui.
Oui.
Il y a un code. C'est, ils n'ont pas tué. Ils vont pas tuer des gens qui n'ont rien à voir dans le système. Ils vont pas te faire des. Ça s'appelle des dommages collatéraux. Non, non. Non, c'est derrière, dans toutes les grosses organisations, Nissan, tout ça, tu as les Yakuza.
Ah oui?
À l'époque, ah oui. Non, c'est fini.
C'est fini, ben, ça a changé un peu ça.
Moi, je me rappelle, j'avais été. J'aurais un truc là, donc je suis interdit de. Ils ont interdit les journalistes de me parler. Et donc, ça, c'est mon image à. Je dis, tu sais, quelque chose qui est interdit, bah, t'as envie de lui poser la question. Tu vas dire, mais lui, non, t'as pas le droit. Ah, mais merde. Faut que j'y pose. Non, t'as pas le droit. Et hop, ils y allaient quand même, et puis ils prenaient des amendes, et puis ils étaient contents de me parler, et puis donc, à un moment donné, le Japonais m'a dit, non, je te veux. Et moi, en fait, le Japon, moi, me manque énormément, et puis je regarde la compétition dure. Et je casse mon contrat avec Don King.
Ah ouais, tu vas casser ton contrat américain pour repartir. Mais tu gagnes de l'argent au Japon?
Ah ouais.
Tu arrives à négocier mieux avec lui?
Non, mais c'est le Japon qui manque. Le Japon manque.
Ouais, c'était ton endroit.
Ouais, je fais comme pas mal d'oseille, ouais.
En 97, t'as 25 ans, à venir, mais ta fille Victoria qui arrive.
Ouais.
C'est-à-dire que tu deviens papa en même temps, avec tout ça, bien. Etc. Tu rencontres ta femme là-bas? Comment ça se passe?
Non, ma femme, je la rencontre dans le quartier. Je la rencontre. C'est la seule femme que j'ai draguée de ma vie, hein. Faiza. Et Phil Cartier, tout ça, j'étais en rupture amoureuse de quelqu'un, puis j'avais envie d'aider quelqu'un. Puis c'est devenu ma meilleure pote.
Tu l'as rencontrée en France ou au Japon?
En France.
En France?
En France, ouais. Ouais. Je l'ai rencontrée, c'était une amie d'un pote. Pas mal de. C'est une grosse batailleuse, tu sais. Il y avait pas mal de problèmes dans le quartier, donc je l'ai aidé un peu. Puis en l'aidant, je me suis aidé.
Et vous avez une fille à l'époque, ouais. Ça te change ta vision sur ta carrière? Tu fais plus attention après?
Oui,
ça, oui,
parce que ça arrive au moment où j'arrête avec les...
Avec un
j'arrête avec Don King, ouais. Parce que je leur dis, non, moi je combats plus de fois au Japon, Donc, non, non, ma fille joue qu'à manger. Non, il est hors de question. Non.
T'arrives à l'éduquer ta fille, toi ? Même si t'es toujours sur la route, c'est plus ta femme qui gère ?
Ouais, c'est sa mère qui. Non, je suis comme là souvent, je suis comme là 99% du temps.
Ah oui, t'arrives
mais
à.
Mais bon, après, avec les 99%, t'enlèves encore 15% parce que les entraînements, les conneries à côté, les sorties un peu machin. Voilà, à l'époque, je sortais pas. Donc, non.
Tu l'éduques sur quelle valeur ? Un peu sévère ou t'es plutôt détente, toi ?
Comme je dis la fois, c'est un peu mon brouillon. C'est-à-dire que je l'ai un peu élevé comme mon pote. Donc, à un moment donné, quand ton pote, tu dis non, mais là, non. Je me suis dit non. Puis moi, j'ai pourri ma fille. C'était bon.
Et t'as été dur avec des mecs qu'elle peut ramener à la maison ? Parce que t'avoir comme beau-père, c'est peut-être pas le meilleur cadeau.
Non, toujours. Très gentil. Bah, écoute, non, celui qu'elle a ramené, elle l'a gardé.
Un peu timide.
Non, celui qu'elle a ramené, où j'ai mangé. Non, j'ai envie de
Non, il était bien, ouais.
Ouais, Pierrick, ouais.
Tu l'as mis un petit coup de pression ?
Oui, parce qu'à un moment, il a voulu. On dit la vérité, hein.
Okay. Ouais.
Il a voulu lui mettre un peu la main dessus.
Dans quel sens ?
Ah, bah, il avait attrapé un peu par le callback et puis.
Ah,
ouais.
Oula.
Là, je lui mets quatre pattes.
C'est vrai ?
Ouais. Je l'ai éclaté. À quatre pattes. Je lui dis maintenant, tu vas faire le chien.
Je crois pas.
Ouais.
C'est vrai.
La prochaine fois que tu attrapes ma fille et que tu lèves la main et que tu essaies de la rabattre.
Ah, mais ça, par contre, c'est inacceptable.
Ah, non. Donc, elle essaie de la rattraper. Bon, elle aussi est un peu chiante, hein, d'accord ? Mais
ta fille aussi, elle est
normale. Ouais, du caractère, hein, les Victoriens. Donc, ça a dû monter. Et puis, c'est sa mère qui a dit, ouais, elle a voulu rien me dire, parce qu'elle parle pas,
elle. Elle, ah, non, ta fille, t'as pas dit ouais.
Donc, Faiza m'appelle, elle me dit, faut que je te parle. Oh, ok. T'as si, je vois, ouais. On me dit, bah, il s'est passé ça. Ils m'ont fermé la porte derrière, et puis, mais je sais qu'il s'est passé ça. Ok. Toc, toc, toc. C'est un moment où ils étaient plus ensemble. Donc, bonjour, monsieur, c'est le facteur. L'attraper, et puis.
Il a compris pourquoi tu venais ?
Ah ouais. Il s'est excusé, bien sûr.
Ah oui ?
Ah ouais. Ah oui, il s'est excusé, et puis. Non.
Je lui ai fait faire le chien.
Non, mais là, dernièrement, j'ai même trouvé un travail, tout ça. Non, je suis.
T'entends toujours bien avec, mais.
Ah oui, je m'entends très bien avec. Ah ouais, non. Je l'aime beaucoup, d'ailleurs. Parce que, non, je sais qu'il aime ma fille. Donc non, je suis. Mais il y a un moment donné où est-ce que tu peux pas. Tu verras, toi, on peut pas s'immiscer dans la vie des gens. Même si c'était ton enfant, il faut qu'elle fasse des bêtises, il faut qu'elle fasse des.
Des erreurs.
Des erreurs. Il faut qu'elle se trompe de chemin.
Ah ouais, il faut qu'elle fasse des mauvais choix lumière, pour voilà. Comprendre.
Voilà, c'est obligé.
Ouais. Tu peux pas empêcher quelqu'un de tomber de vélo.
Non.
Il tombe une fois pour comprendre.
Il tombe, voilà, c'est bien, il se relève. Ça va, voilà. Elle va tomber 99 fois. J'ai dit, de toute façon, je serai là 100 fois pour te relever. Mais je te dis, non, je m'occupe plus du tout de leurs affaires. J'ai voulu amender.
Ah oui.
Non, on va pas avec lui, non, retourne pas, non, mais...
Ah, parce que tu avais dit, retourne pas...
Ah bah, retourne pas.
Et bien, il est retourné.
Il est retourné, puis ils ont eu un autre enfant.
Ah, t'es grand-père.
Je suis grand-père, ouais.
Combien de fois ?
Là, une fois, Aria, et puis dans 5 mois, 3 fois, parce qu'il y en a deux, on en a.
Ah, c'est vrai ?
Pote, 2, ouais. Un garçon, une fille, jumeaux.
Félicitations.
Ouais, merci.
Putain, t'es un grand-père...
Non.
Non.
on m'appelle pas grand-père.
C'est vrai ?
Non, Dadou, ça c'est Dadou.
Ah, c'est Dadou ?
Dadou, ouais. Non, je suis toujours
pas. Bah, c'est mignon d'être grand-père ouais. Après, non ? Toi, t'es un grand-père très très jeune, hein, quand même.
Ouais.
Tu l'as eu à quel âge ta fille ? 25 ? Et elle a 25, eu ? Ouais.
Elle a eu 20.
Ah oui, du coup.
20, la première arrière.
Ah oui, du coup, t'es devenu grand-père super jeune.
Ouais, ouais.
Bah attends, c'est génial en vrai.
Oui,
moi, tu profites de ta descendance.
C'est bien.
Parce que quand tu as très très tard tes enfants, tu les vois
moins. Mais c'est vrai que moi, je suis pas très famille. C'est vrai, je vois. Il faut que je corrige ça. Je suis pas très famille. J'ai ma filleule que je vois pas souvent. Là, j'étais à sa communion. Elle s'est communiée à 36, 37 ans. Ouais.
Par manque de temps, entre guillemets, ou c'est parce que t'es éduqué comme ça ?
Parce que j'étais affolé par ma famille. Tu sais, on était dans une famille qui s'appelait un certain nom. Moi, je m'appelais Le Banner. Donc, ma mère était la seule fille de la petite fratrie, là. Donc, elle avait perdu son nom de jeune fille, à l'époque. Hein. Donc, elle s'appelait Le Banner. Et moi, on me disait, ouais, t'es pas un... Je vais pas me taire le nom de famille. Mais on me disait, voilà. Ouais, j'étais le seul garçon dans une famille que de filles. Donc, que des cousines que j'adore, d'ailleurs. Ouais. Et puis, même, c'est pareil, il y en a qu'une que je garde contact. Deux, ouais. Enfin, surtout une. Et puis.
C'est
fou. Ouais. Mais j'essaie d'être là quand il faut. Mais sinon, je ne suis pas un trait de famille, tu vois.
T'as jamais fait trop de... Quand on regarde un peu ton CV, t'as jamais fait trop de conneries de jeunesse?
Non, du tout.
Quand on voit ton CV, t'as enchaîné un peu sport tout de suite, papa à 25 ans, t'as pas eu de grosses conneries, t'as pas fait de grosses bêtises?
Qu'on pas été... J'ai été intelligent. J'ai fait des conneries, ouais, enfin des conneries.
Qui sont pas trop sues, quoi.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Oh.
Ouais.
Comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde.
Ouais. À l'époque, il y avait Canal Plus, tu sais, Canal Plus, il y avait des gens derrière, on vendait des services, des machins, tout. Voilà. Non, mais j'étais très intelligent.
J'ai quelqu'un un jour qui m'a dit que tu étais un grand fan de chiens.
Ouais.
Et que tu adorais, et que tu avais carrément un élevage de chiens, et que tu avais des très très gros chiens. C'est vrai ça?
C'est vrai. J'avais des filets brasileiros. Enfin, j'ai toujours des filets brasileiros. Et...
Je vous mets une photo qui apparaît à l'image, ouais. Là. C'est des énormes chiens.
Ouais.
C'est gentil ou c'est méchant?
C'est gentil avec sa famille et très très dur avec l'étranger. C'est que tout ce qui est étranger à la famille. Enfin, moi, les humains, je ne les élève pas comme ça, ils sont comme ça.
Ah, de base?
De base, c'est comme ça.
Dans leur ADN, tu sens que...
Dans l'ADN, c'est qu'ils t'aiment, ils t'aiment tellement qu'ils te défendent. Il est ce qu'on appelle ces chiens portugais, à la base, quand ils ont été au Brésil, ils ont ramené avec eux, et c'est ce qu'on appelle l'ojeriza. Ojeriza, c'est la crainte de ce qui peut être étranger. Donc, des fois, ça peut être aussi, la cousine de la peur. Donc, ça fait aussi des fois des chiens peureux. En fait, l'ojeriza, c'est aussi la volonté de ne pas se laisser soudoyer par autrui. J'ai Ojvarka aussi, des chiens russes. Ojvarka.
Comment il s'appelle le chien des Romains qui était très grand, là, il y en a qui ont et qui protègent pareil. Comment ?
Canicorso, ouais.
Canicorso, et qui protégeait les enfants,
ouais,
je crois,
ouais,
non ?
Ouais, c'est ça.
Il laissait.
Ouais, Canicorso qui protégeait.
C'est plus gros qu'un Canicorso encore ?
Ah, c'est plus gros. Ouais.
Canicorso, c'est gros.
Ouais, dans mon filet brasileiro, celui que j'ai. Qui est né chez moi d'ailleurs, le sol. Il vient du Brésil. Enfin, les parents viennent du Brésil. Il est super beau. Il fait 75-80 kilos. Il est super, super beau.
Ouais. Il fait combien
il fait
80
kilos. Ouais, 75 kilos il y a 2 ans. Il est inapprochable. Ce que j'aime. J'aime tout ce qui ferme sa gueule. Moi.
Il fait 80
kilos.
Incroyable.
Ah, une bonne tête.
Il n'y a que toi qui l'approche?
Moi, ma fille, ouais.
Oui, c'est ça, la famille ouais, proche, ouais. Quoi.
Si, par exemple, des gens qui venaient... une personne qui voulait, tu vois, on l'a appelée Ezri, tu vois. Et elle a pas vu pour un bout de temps, et puis un jour, elle a décidé d'aller le voir. Il dit, toi, t'as voulu que je reste avec toi, et tu m'as pas donné une caresse en 2 ans.
Ah, c'est vrai?
Ah ouais. Ah, ouais.
C'est bien pour les cambrioleurs?
Ah oui. Ah, ça, j'ai vu, enfin, il y a des aux États-Unis comme la... Le port d'armes était. Enfin, il y a l'égalisation dans certains états d'avoir des armes. Il y a beaucoup d'histoires où les gens, les chiens se tuent pour. C'est le bodyguard. Hein.
Ah oui?
Ils se tuent pour. Ah ouais. Ce chien-là, il t'aime tellement. Si tu l'élèves comme un chihuahua, comme un petit caniche, mon toutou, il est inapprochable. Tu ne l'approches pas. Bon, maintenant, c'est. Après, il y a eu un gros élevage qui s'appelait Monsieur Kléber, Gérard Kléber, dans l'Est de la France, l'élevage du molosse. Et lui, il faisait vraiment des chiens, il venait aussi des États-Unis. Ces chiens, pareil, il avait vraiment ce qu'on appelle l'ojeriza. C'est vraiment, ils n'avaient vraiment aucune crainte de la peur. Voilà. Et donc, dès que toute personne étrangère à la famille, c'était. Et donc, c'était des chiens très, très virulents. Tu vois.
Les gens de podcast.
Tu t'es jamais fait, toi, cambrioler, etc.
Non, je veux. Mes parents, oui, une fois, ouais, quand j'étais jeune. Ça va, ouais.
En 2002, tu vas être à ton prime, ça marche très fort. Au Japon, toujours, hein, tu vas jouer une nouvelle finale du K-1. Il y a Ernesto Houst, on va en reparler après de ton bras, etc. C'est en 2002. Tu pensais gagner Ah oui. Il y a un documentaire qui dure une vingtaine de minutes, qui est sur ta chaîne YouTube. Je vous incite à aller voir. Je vous mettrai le lien en cliquable sous la vidéo si vous allez le retrouver. Vraiment intéressant. Énorme combat. Tu arrives en finale contre lui. Tu es déjà fatigué par deux autres combats, ouais. Comme on expliquait tout à l'heure, en trois combats. Dans la même soirée, ce qui est quand même usant. Et tu arrives. Ernesto Hoos, c'est un mec qui est extrêmement connu dans ce milieu-là.
Ah bah ouais.
C'est un peu la star.
Ouais. C'est la star.
Qui est la star. Tu pensais gagner au départ du combat. Tu dis, c'est bon, c'est pour moi ce soir-là.
Bah, moi, j'ai eu deux gros combats, quand même. Donc, Mark Hunt aussi, qui fallait aussi éliminer, le New-Zélandais, qui après a migré vers l'UFC. Lui, on a fait une bataille. Aussi contre un Japonais, Musashi, d'ailleurs. Pareil, grosse bataille aussi, parce que façon, tout le monde veut remporter, tout le monde ne veut pas laisser sa place. Et lui, Oost, il combat contre Bob Sapp, et il se fait battre par Bob Sapp. Et à un moment, il y avait un combat de réserve. Et ils ont dû prendre le gagnant du combat de réserve. Ils ont pris Oost, parce que Oost, c'est vrai que c'est monsieur, quatre fois champion, cinq, trois fois champion
du monde. C'est un grand black, très solide.
Très, très fort, ouais. Et donc, pareil, voilà, c'était une finale rêvée, quand même, pour les Japonais, parce qu'on a une grosse aura là-bas, tu vois. Et donc forcément, donc, mon combat contre Mark Hunt, je sens déjà que j'ai un premier roi. Je sens que ça bouge.
Avant le combat ?
Après le combat de Mark Hunt, je suis dans le vestiaire, tu sais, tu te refroidis, c'est ce qui est plus, je me rappelle. Tu te refroidis, on te met plein de glaçons partout, machin, puis t'as une heure et demie après, tu repars à la bataille, ouais. Au charbon. Et là, je refais des mouvements, et là, je sens qu'il y a mon os qui grelotte.
Ça te fait pas mal ?
Oui, ça me fait mal, ouais, mais l'adrénaline fait que, puis tu peux pas...
Ouais, annuler, là.
Ouais, ouais. Et on dit, putain, c'est bon, on sent qu'on a l'alignement des planètes. Non. Et là, on est bon. Quand il me frappe dedans, ça.
Il le voit que ça.
Ah bah il le voit pas. Il voit le première fois, j'essaie de le cacher. Mais après, bon, là, en fait, ça fait un trou là. J'ai un trou béant dans l'avant-bras. Donc après, je sais pas, tu me tapes. Donc voilà. Et comme un con, j'aurais dû changer de garde. J'aurais dû me jongler puis le mettre en avant comme ça. Mais bon. Bon, tellement pressé de jouer, bah, jouer le
tu voulais
le
finir.
Ah, je voulais finir.
T'as essayé, t'en mets des.
Ouais, à 30 secondes à la fin, bah, le dernier coup de pied fait que bah, là j'ai l'avant-bras qui est cassé en quatre morceaux. On voit des morceaux à la radio, il y a des morceaux de braves d'os partout.
Ah putain. Et tu continues quand même, t'essayes, ouais. Tu reviens à chaque fois.
Je reviens.
L'arbitre il pense qu'il va t'arrêter, tu retournes.
À un moment donné, je fais ça, je suis au sol, je souffle un peu et je vois mon bras. Je peux pas faire ça, tu sais. Et là, je vois la caméra, je vois que ça fait l'avant-bras, ça fait. Comme ça.
Ah là là.
Tout bleu.
Et là, si jamais t'es arrivé jusqu'au bout des 30 secondes, à la fin, c'est le dernier round, là.
Je gagnais.
Tu gagnais ?
Ouais, je gagnais.
Pourquoi tu gagnais ?
Parce que...
Tu savais que...
Ah, parce que c'est moi qui avais avancé sur lui tout le temps. Donc j'ai déjà eu en perdition deux ou trois fois. Ouais, si ça avait été jusqu'au... Si j'avais pu tenir encore 30 secondes, c'était bon.
Putain, à 30 secondes près, ouais. Est-ce que tu l'as jamais gagné ?
Non.
T'arrives toujours à chaque fois, là.
Ouais, ouais.
Et là, tu pouvais gagner enfin ce combat.
C'est ça, et merde.
Et qu'est-ce qui se passe, il t'en remet un dernier ?
Un dernier, puis là, bah, je sens dans ma tête que tout pète.
Ah, c'est trop, là.
Bah, je ne tiens plus. Déjà, certaines personnes, pour un truc dans le pied, ils sont en train, ils boitent. Moi, tu m'étonnes que le bras tout cassé.
Ouais, et donc, là, tu as une énorme cicatrice, tu peux, ouais. La montrer jusqu'au... c'est vraiment...
Ah, ici.
Elle est très, très grande. T'as quoi comme opération après, juste ?
Ah bah, donc, ils m'ont mis du matériel normal... Dans un matériel normal dans l'avant-bras, sauf que mon avant-bras, c'est un truc de bœuf, tu vois, mes os. Ouais, en fait, le mec, il pensait que j'allais rester tranquille, serein à la maison pendant un mois et demi, puis non, au bout d'un jour, je commençais à refaire des pompes. Tu sais, je faisais le con, je me suis dit, bah, je vais récupérer rapidement. Et en fait, non, au bout d'un jour, j'ai voulu retirer le plâtre comme un con. J'avais des gens qui venaient à la maison, je dis, je vais faire quelques pompes. Puis, pop!
Il s'est recassé ?
Ah bah, je suis senti un peu...
Aïe, 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 aïe.
Et donc, en fait, non, ça c'est... je l'ai pas dit de suite.
Ah bon ?
J'ai remis le... Ah non, tu sais, comme un enfant, tu sais. Comme un enfant, tu vas voir le radiologue, vous avez fait quelque chose ou il s'est passé quelque chose ? Non, non. Non, rien. Non, rien du tout. Mais tu n'es pareil, tu sais.
Ah, t'as posé leur dire ?
Ah non. Non, que j'ai retiré le truc juste avant Noël, faire des bombes. Prendre un peu les bras, prendre la gueule. Ah non. Non, en plus, j'ai vraiment senti le truc. Je me rappelle la pompe, je me rappelle où je l'ai fait chez moi. Et je sens le. Je dis, oh là, mais qu'est-ce qui se passe là ?
Tu retournes à l'hôpital direct ?
Non, donc j'ai un peu mal au bras. Mais, on attend de retirer le plat. Donc j'ai attendu 3 semaines après pour retirer le plat. Puis là, ils ont dit, bah, il se passe quelque chose, il y a le bataille qui a cassé. Bah bon ? Comment ça ? Donc là, greffe osseuse et tout.
Ah, wow.
Staphylocoque dedans.
Ah, c'est vrai ?
Ah, ouais, j'étais voir un professeur de Paris qui m'a dit, là, monsieur le Malher, la boxe, faut oublier. Non.
Ah, c'est vrai, il t'annonce genre la fin de...
Oui, bah non, j'ai un staphylocoque au niveau de là de...
Le staphylocoque, c'est une sorte de... C'est une bactérie, non ?
C'est une bactérie,
ouais. On attrape à l'hôpital, soit...
Ouais, le staphylocoque doré, heureusement.
Il y en a qui décèdent.
Ouais, et puis moi, donc il avait mangé tout autour de la vis, et le staphylocoque avait mangé, donc ils étaient obligés de retirer un bout de la hanche là pour remettre plaqué dans la broie.
Ouais, c'est une grosse opération.
Ah ouais, et puis là, il m'a mis la grosse ferraille.
Putain. Et tu l'as encore, la ferraille, ou ils ont...
Non, j'ai retiré quand j'ai fait Astérix Obélix. Ouais, parce que je sonnais au portique. Quand je passais au portique,
pour vrai.
Hein. Tellement le truc était épais. Putain. Ouais. On voyait, tu sais, la fleur de boue. Puis donc, moi, j'ai combattu avec ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prenais un coup de pied dans l'avant-bras, c'est pas mon avant-bras était heurté, mais surtout la tête. Ça me faisait des frissons dans le...
Au Japon, quand tu perds, tu ne pleures pas?
Non.
À aucun moment tu craques à un moment?
Non, je craque, c'est dans la voiture.
De tristesse, quoi.
Je craque dans...
Après?
Dans la voiture, ouais. Quand je rentre en France, on me porte à l'hôpital, je me fais opérer. C'est la première fois que je me fais opérer, je veux pas dormir. J'ai vu qu'on m'opère sans... Moi, pour moi, m'injecter des produits dans le sang pour dormir, je trouvais ça inapproprié.
Tu voulais pas qu'on t'endorme?
Non.
Mais c'est pas vrai.
Mmh.
Pour faire tout ça?
Ouais, donc forcément, ils ont été obligés. Et puis je me rappelle.
Le médecin, il t'a dit.
Le médecin m'a dit, il a regardé, il m'a dit, il y en a partout. Il y en a partout de quoi? Des os, et des ossements partout, il est obligé de tout. L'opération a duré 6 heures.
Ouais, ça aurait été long quand même.
Ah ouais.
Sans dormir, ça aurait été...
J'ai vu qu'après, à Paris, ils auraient pu m'endormir là, mais bon.
Ah, juste le moment.
Ouais, non, c'était une opération trop cool. Il fallait chercher plein de trucs, plein de blouses partout. Quand ils m'ont retiré la plaque, là, je me suis pas fait endormir. Donc ils m'ont retiré la plaque avec des vis, et je voulais tout entendre, moi. Mais comment vous sentez, monsieur le Valère? Bah, là, en ce moment présent, présentement, je le sens comme une planche. Mais il y a ça sentait le poulet.
Ouais, je vois très bien. C'est de la.
Le poulet.
C'est du poulet.
Donc quand j'ai pleuré, ouais, j'ai pleuré pour quand j'ai vu que j'avais perdu les sous, l'argent, et puis que je me rappelle, je vois quand on arrive sur la grosse nacelle devant le public, et je vois ma fille qui, on voit l'Arc de Triomphe, et ma fille qui me prend, non, c'est vrai, qui m'embrasse.
De quoi, sur le terrain, tu veux dire?
Sur le terrain, en fait, les Japonais te suivent pendant une semaine, font des espèces de countdown, là, tu sais, et puis il y a un moment donné une photo, une image d'elle où il y a l'Arc de Triomphe.
Ah, il met des photos de toi.
Elle me prend, tu sais, dans, comme ça, puis elle me tire vers elle, puis elle m'embrasse. Waouh!
Ah, dur.
Ça me fait quelque chose.
T'as pleuré quand elle est née?
J'ai pleuré de joie.
Ah oui, c'est ça, pleuré de joie.
J'ai pleuré de joie, ouais. J'ai écouté
souvent, les gens qui sont durs pleurent plus facilement de joie.
Ah, moi, je suis très sensible. Ouais.
Évidemment, c'est des beaux moments. Ils t'appellent le roi sans couronne, les Japonais. Mmh. C'est un surnom qui va te rester. C'est pour ça que cette vidéo s'appelle le roi sans couronne.
Ouais.
T'as eu plein de surnoms. Geronimo, Hyper Battle Cyborg, Bulldog of Normandie, etc. Ça te faisait marrer ou tu trouves ça ridicule?
C'est vrai. Débile, je trouve ça ridicule.
Ouais.
Ouais. Déjà, un, c'est bien, pour plusieurs.
Combien de temps tu vas passer vraiment blessé avant de pouvoir peut-être recombattre?
Un an et demi. Ouais.
Et en 2004, t'es pas loin de te battre avec Mike Tyson.
Ouais.
Il voulait que ça soit la boxe anglaise, lui. Toi, tu veux pas? Tu le fais pas, du coup?
Non, c'est pas comme ça. Lui, il voulait donc les lois de Quintusbury. Il voulait... il voulait en boxe anglaise, donc j'ai dit oui. Et à un moment donné... on s'est vu à Las Vegas, on a pris des photos, tout ça. Et lui, en fait, il avait roulé dans la farine les Japonais. Donc mon gros boss s'appelait Monsieur Ishii, Kancho Ishii. Un homme que je respecte tout le temps, jusqu'à fond de vie. Et donc lui, il avait dit, ouais, je veux Mike Tyson contre le Banner au Japon. Et le problème, c'est que Monsieur Mike Tyson avait un casier, record. Donc il ne pouvait pas venir au Japon. Il n'aurait pas donné le visa, tu vois. Parce que là-bas, ils font vraiment la différence. Prison... Prison. Visa. Visa. Donc, non. Donc, OK. Il avait essayé par tous les moyens de le faire venir au Japon. Il n'avait pas réussi. Et puis, à un moment donné, les journalistes américains me disent, oui, de toute façon, vous n'avez pas peur de rencontrer Mike Tyson. Ce n'est pas votre sport de prédilection, la boxe anglaise. Il va peut-être lui arriver de vous mordre l'oreille. Et je lui dis, Oh, c'est bon, c'est pas grave, je lui mettrai mon 45 dans la gueule, dans la bouche. Donc ça fait. J'étais même obligé de signer un papier, comme quoi, si le sauvage se faisait, que si je tapais avec mes pieds dans la tête d'un mec, mes avoirs seraient gelés. Tout
ah oui.
Ah ouais. Je me rappelle, c'est un avocat de Hawaï. Ouais.
Ils aiment pas trop ils aimaient pas trop le trash talking à l'époque, c'était pas pareil.
C'est pas. Non.
Comme aujourd'hui au MMA, où ils vont s'amuser à se balancer des pics, peu, machin. Ouais. Doumbé, on l'a reçu ici à l'époque, c'est vrai que c'est un mec qui fait beaucoup ça. Ouais. À l'époque, c'était moins comme
ça. Ah, non, c'était même. En France, c'était mal vu. Non, c'était. Les arts martiaux, c'est. Enfin, moi, pour moi, c'est une éthique, une valeur. Donc, on va pas raconter des trucs sur ta mère ou ce qui c'est. On parle pas. Enfin, on parlait pas.
Vous vous battiez, mais vous parliez
on
pas.
On se battait, voilà. Et à un moment donné où j'ai ouvert ma gueule, ça... Non, c'était là. C'est pas mon truc.
Et quand tu dis que ces valeurs étaient différentes et tout ça, ça vous arrivait de boire des coups avec les adversaires ou quand même pas après?
Non. Alors par contre, eux, je pense que maintenant, oui. Quand j'ai vu Cédric invectiver Baki, machin, Baki, Témur, machin, puis après, ils prennent main dans la main, non. Il y a un moment donné où est-ce que... Non. Moi, j'aimais relever mes adversaires, tout ça et tout, mais si le mec m'avait manqué de respect... J'aurais pas été boire un verre avec lui.
Ah oui ?
Non.
Il n'y a eu aucun combat qui s'est fini par un petit moment sympa dans le vestiaire ?
Oui. J'ai vu même un mec de Gary Goodridge, un Jamaïcain qui vivait aux États-Unis. Je l'avais mis KO, mais gravissime, tu vois. Et je le porte dans les vestiaires, je le monte sur mon dos, parce qu'il ne peut plus marcher, le mec.
Ah oui ?
Ah, il ne peut plus marcher. Donc on se croise dans les vestiaires, il est en train de machin, puis je dis hop, je prends, et je l'amène dans son vestiaire. Sur l'eau, sur moi.
Oui, parce qu'il y a des mecs sympas en soi.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pas de ne pas être sympa, mais à un moment donné, où est-ce que, quand ça va, quand le trash talk rentre dans la vie privée, comme il y en a, c'était je nique ta mère ou j'ai baisé ta femme, machin. En plus, des fois, c'est vrai. Merde. En plus, c'est vrai, merde. Merde.
En 2008, tu vas jouer dans Astérix Obélix, t'en parlais avant, tu te fais enlever les plaques, etc. Bonne expérience au cinéma, c'est quelque chose qui te plaît, que tu découvres à l'époque.
Bah oui, là je joue un rôle de personnage, je joue le rôle de Claudius Corindurus, l'homme le plus rapide de tout l'Empire romain. Et là non, c'est rigolo parce que je joue avec Depardieu, Clovis Cornillac, que je vais retrouver que j'ai vu avant dans Scorpion, le film sur la boxe, enfin, le MMA. Qu'est-ce que je veux dire? Non, j'ai vu aussi Monsieur Delon, Alain, qui est venu à mes combats, j'étais chez lui, Douchy, tout ça. Non, c'est...
Oui, gros casting.
Ouais.
Et Astérix, ça
fait quoi? Gros, 6 mois, avoir un gros truc. Et je remercie Thomas Longman qui m'a fait, qui est venu me voir à Bercy avec une cape rouge. Et qui, il me faut. Donc j'étais au rendez-vous et j'ai passé le casting. Moi, je veux pas faire figurant, je tenais un rôle. Et comme du texte, tout ça, je dis bien, puis attends, faut jouer avec Depardieu, qu'est-ce que vous faites là? Et puis on va à Brie-sur-Marne, là où il y a tous les studios, je commence à, mais je me rappelle, j'ai vu la perruque, le machin vert, je mets les pompes, et j'arrête le cinéma et je fonde une famille. Et je vois, c'est Gérard Depardieu qui est au-dessus de moi, il dit, ça va, t'as le trac? C'est bon ça.
Ouais.
Ok, ouais, puis il y avait Uderzo qui était là, tout ça, donc j'étais pris. Ouais. Puis après, il fallait partir dans la grosse machine qui était Astérix Obélix. Et puis avec Thomas Longman, et puis Frédéric Forestier. Non, c'est une super
machine. T'as réussi à jouer facilement?
Facilement, ouais. Moi, en casting, je suis très mauvais. En casting, je suis pas bon. Mais là, comme il y avait les
partenaires. Donne la réplique. Ouais,
là, j'ai fait des castings derrière moi. Non, je suis l'instant T.
Et après, en 2008, tu vas tourner Babylon ID avec Mathieu Kassovitz.
Ouais.
Et il y a Vin Diesel qui vient pas s'entraîner un jour pour une scène de bagarre. Et pas là.
Bon. Une fois, deux fois.
Tu l'attends.
Ouais.
Poliment.
Une fois poliment, deux fois poliment. Parce que quand il vient te voir, quand on fait d'autres scènes, quand il fait d'autres scènes, moi je reste parce qu'il faut chorégraphier la scène. Il dit Et Tito Ortiz, bon, c'était les mecs de l'UFC de l'époque. Ouais, quand je vois tous mes potes à l'UFC, je veux que ça soit un combat extraordinaire. Je veux que ça soit le combat extraordinaire du film d'action. Je veux qu'on fasse quelque chose de bien, nanana, super, super. Il y avait Alain Figlas qui montait les scènes d'action. Et on dit, ok, mais quand? C'est bien de combattre, enfin, de, de faire les
scènes d'action avec
ton stunt, ton cascadeur. Ton cascadeur, parce qu'il faut savoir qu'il a un cascadeur de face et un cascadeur de crâne.
Mais non.
Oui, un belge.
C'est deux différents.
Oui, deux différents.
Mais
donc j'y suis bien de le faire avec le cascadeur, mais si tu veux qu'on si on va faire champ contre champ, ça va être naze. Faut faire du global, faut faire du séquentiel, tu vois.
Un plan séquence.
Ouais, un plan séquence. Donc one shot. Et voilà, l'inverse. Puis une fois, deux fois, puis il me prend pour un con.
Vin Diesel.
Il me dit, ouais, je vais le faire, t'inquiète pas, oui, pas bon. Demain à 10h, 10 hours, ok. 10 o'clock, nobody's here.
Personne n'est là. Nobody's in the lobby.
Donc, une fois, deux fois, trois fois, puis on répète avec le stunt. Très gentil d'ailleurs. Et à un moment donné, je dis, hey, fuck. Je vais le chercher, j'ai dit, non, pour un con, tu veux le truc extraordinaire qu'on va parler encore dans 20 ans, bah écoute, non, tu viens demain. Et puis le lendemain, il n'est pas là du tout. Et donc, je monte dans sa chambre et je l'attrape pas par les choses qu'il n'a pas, mais je l'attrape par le cou. Je lui dis, hey, come on, you want to fuck with me? I'm going to fuck you.
Attends, ça veut dire quoi?
Tu me prends pour un con. Moi, c'est moi qui vais te mettre. Et donc là, il m'a dit, ah, je l'ai descendu. Il est venu la première fois.
Je l'ai descendu.
Puis, on a même pas pris l'ascenseur, c'était trop long, ça, je voulais pas attendre. Je l'ai attrapé par le col, par la veste.
Mais il vient?
Et il vient. Et là, je me rappelle, Mathieu me dit, oh non.
Mathieu Kassovitz?
Ouais, il me dit, ouais, des problèmes. Parce qu'au départ, il était tout content, tu sais.
Qui?
Mathieu est content que. Parce que Mathieu avait des gros problèmes avec ce mec-là. Parce
oui, c'était un tournage qui s'est mal passé, je crois.
Gros problème. C'est-à-dire qu'il s'est vendu lui-même comme un chicano, c'est machin. Puis Mathieu, il a fait vendre ça, c'est ouais, machin, là. Puis en fait, oui, c'était que du pimp. Et en fait, pipou, puis. Une brioche, là, une bedaine qui commençait à prendre de l'essor, tu vois, il commençait à être plus gros que la moyenne.
Ah oui.
Et puis une relation avec sa sœur un peu tendancieuse, je dirais. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire un geste sans l'aval de sa sœur, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, tu vois. Et donc, je l'attrape, j'ai rien à perdre. Bien, je l'attrape, on descend les marches, on va dans le gym. Écoute, il a aimé ça.
Ah oui?
Ouais, il est revenu les deux ou trois fois, puis après, il s'est recommencé ses conneries. Donc, le jour du tournage, on tournait à 2h du matin, il faisait moins 30, à Prague, là. Et donc, à un moment donné, la scène qu'on n'avait pas faite, je le prends, je ne sais plus comment, et puis je le tourne à droite. Et donc, tout est fait pour que je ne cogne pas l'acteur, parce que moi, là-dedans, je suis qu'un cascadeur un peu au niveau, tu vois, mais quand même. Donc, Mathieu me dit, s'il y a quoi que ce soit, putain, il faut qu'il n'y ait rien qui arrive, quoi. Et le mec, quand il me voit, il veut vraiment faire les scènes d'action avec moi. Donc là, moi, je suis content, et puis tout se passe bien, puis à un moment donné, je l'attrape, il doit aller à droite, et ce con est tellement gros, et il va à gauche, et là, mon genou...
Ton genou ?
Le ligament croisé pété.
Ouais. Putain !
Ouais. Je dois combattre 15 jours après au Japon. J'ai signé le contrat, donc je peux pas dire non. J'y vais, et je perds le combat, d'ailleurs. Je perds le combat, au point, mais je fais 3 rounds de merde. Sur mon genou, il
tenait pas bien.
Voilà, je retourne finir la scène de Cola Alcène, parce qu'il y avait la scène qu'on n'avait pas faite, à cause de ça. Donc je la finis avant l'opération, parce que c'est 6 mois. Et donc là, Vin Diesel m'a dit, le jour du tournage, elle m'a dit, non. Non. Il y a du vent, non, I don't do it.
Mais pourquoi?
Je sais pas.
Putain.
Donc là, je vais dans son trailer, dans sa caravane, là. Et là, j'ai poué la vie. Là. J'ai dit, écoute, tu m'as niqué mon esthète. En fait, voilà, je te pensais déjà, bon, le nom, oui, Vin Diesel. Diesel, tu portes bien ton nom pourri. J'ai dit, franchement, t'es une merde. Toi, demain, tu te rappelleras pas de ce qui s'est passé. Moi, franchement, tu m'as tué. Est-ce que ça devait être une bonne scène? On devait faire le truc et tout. Et bon, au montage, ça va être une merde, donc Mathieu le gardera pas. Donc, j'étais atteint, donc... T'es un enculé. Donc, son arrière du corps a voulu venir. J'ai pris la fourchette. Hop, j'ai Alain Figlars qui est à côté, là, qui fait le Krav Maga. Et puis, mon pote, il a la drape. L'autre, il dit, attends, tu bouges là. Et après, le couteau, le machin, il dit, tu bouges pas. Tu bouges même pas un sourcil. Et donc, on s'est barré.
Les gens de podcast.
On commence à manger. On était Alain Goldman, qui produisait la môme à l'époque. Et il reçoit un coup de téléphone 2 heures après qu'on soit à table, enfin qu'on soit revenu à l'hôtel, on changeait. Donc là, on a commencé à 8h le soir, il devait être, je sais pas, il commençait pas loin de minuit. Coup de téléphone du stunt crâne belge de Vin Diesel.
Petit crâne belge.
Ouais. Bah, qui nous dit non, Vin veut finir la scène, finalement. Ok. Donc, bon, bah, quoi. On a le feu vert.
Putain, c'est fou, quoi.
Ouais.
Ils ont le tout, le
pouvoir. Et là, tout le monde reprend, puis on fait vite fait le truc, et ça se passe bien.
Et ça va quand même, ouais.
Ça va quand même, au montage, à un moment donné, au montage, j'ai Mélanie, je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice principale, où est-ce que je la prends dans le... En fait, je vois dans ses yeux qu'il se passe quelque chose, tu vois, et donc je mets un peu à pleurer, et tout ça, je me rappelle que... Pense à ta mère, machin, compte le dernier moment que tu n'as pas pu avoir avec ta maman. Jérôme, pense à ta mère. Je me mets à chialer et tout. Et donc, il y a le moment où est-ce que ça n'a pas été pris parce que des fois, il devait être à droite, il devait être à gauche. Enfin, bon, il avait merdé. Donc, Mathieu, avec ce grand talent qui est de réalisateur et surtout de monteur, bah, il a pu monter la scène comme il a pu. Voilà. Puis après, il a eu plein de problèmes. Je me souviens que la première du film, je suis avec Mathieu et je vois la scène que machin, je dis. Pff, Il me fait, tout le reste, c'est comme ça. Je dis, OK. Je dis, moi, je me casse. Mais, et c'est son film, hein. Il me fait, moi aussi.
C'est vrai?
Ouais, on était boire un verre au bar sur les Champs-Élysées, le bar de Deauville.
Ouais. Wow.
Ouais. Et il a dit, je m'en fous de tout le monde.
Ah ouais?
Ouais.
Il y a des films, quand ça veut pas, là.
Ouais, et puis bon, il faut être Mathieu Kassovitz pour faire ça aussi.
Après, tu vas jouer dans Fatal avec Michael Youn en 2010. Il va te donner ce rôle-là aussi. T'enchaînes, hein, quand même. 2012, auditionné dans une affaire de trafic de produits dopants.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque?
Alors, j'ai un copain qui... Sébastien, on s'est parlé au téléphone, et je ne sais pas ce que tu fais, d'accord? Donc là, j'ai un copain qui est dans les préparations physiques et tout, et qui connaît un copain, qui fait du trafic de tout ce qui est hormones de croissance, tous ces trucs-là. Et ce mec-là vient me chercher à l'aéroport. Donc, voilà. Lui, était en filature. Enfin, lui, ils étaient derrière son cul, tu vois. Et puis, il vient me chercher. Et en fait, voilà, c'est simple. Donc, j'ai les mecs du 36 qui m'appellent un samedi soir. Monsieur Banner, machin, vous étiez sur écoute, tout ça, tout. OK, oui. La garde à vue a commencé pour vos amis. J'ai dit, ouais, qu'est-ce qui ça? Donc, ce mec-là, j'ai dit, ah ouais, ce mec-là. Il dit oui, il est venu vous chercher, on était là, il est venu chercher Charles de Gaulle, ouais, ça. Ok, oui, bon, faut venir demain matin. Et tout. Non, j'écoutais, si j'étais en garde à vue, monsieur, déjà, ça se fait pas pour téléphone. Au départ, je trouvais que c'était une connerie. Je trouvais que c'était Olivier Marchal qui faisait une connerie. J'ai dit, Olivier, arrête. Je t'ai collé, il me dit, non, c'est pas Olivier Marchal. On vous en parlera d'Olivier Marchal, mais non, c'est pas lui. Bon, ok. Je m'en parlerai du nom. Et donc, voilà, et il dit, vous venez, faut venir demain matin. Non. C'était une vraie garde à vue, monsieur. J'aurais été à 6h du matin, vous seriez chez moi. Et on me dit pas une garde à vue, on me convoque pas par téléphone.
Par téléphone, ouais.
Donc j'y vais même dans la semaine. Je vous jure, c'était lundi. Je vais dans la semaine, je m'entraîne avec Amoussou, Bertrand Amoussou, dans la cage à Montreuil à l'époque. On s'entraîne. Et je dis tiens, les copains, je lui portais mon 36, j'appelle les mecs, je dis ouais, je viens. Ok, si je suis pas descendu en 2 heures, partez, vous me gardez. Et donc, en fait, non, ça s'est pas passé. J'ai expliqué le truc, on dit oui, bah, attendez, vous parlez à votre pote d'un produit. Bah, j'ai dit oui, et donc je ramène le truc, j'ai dit oui, attendez, c'est mon sac de sport. Oui, c'est ce qu'on appelle un pré-workout, qu'on appelle en trou, je sais pas quoi, là. J'ai dit, c'est de ça que je parlais. Et donc, j'étais libre. Enfin, les mecs m'ont dit, ok, ils ont pris mon téléphone, l'ordinateur, le machin, hein, pas de problème. Et donc, forcément, bah. Ils ont une service presse dans l'arrière-garde de 36 Quai des Orfèvres qu'on dit. Et heureusement que j'ai gardé un email où il me dit non, tu n'es pas mis en cause dans ce truc-là, de rien du tout. La presse havraise, c'est fait. Donc le Parisien, oui, le Banner, machin, tatata. Pris dans les mains d'un trafic de. Et donc j'ai appelé les journalistes du Havre Libre en leur disant bah, écoutez, quand il y a des bons trucs sur moi au Japon, il n'y a personne. Par contre, encore là. D'administrer, là, qu'est-ce que vous faites, là? Et en plus, c'est pas vrai. Je vous donne le numéro de téléphone. Donc, ils ont jamais appelé la personne. J'ai envoyé le mail de l'inspecteur du 36, leur disant non, monsieur, il n'est pas mis en cause du tout. Et ils ont jamais mis de contre-indication, d'excuses, ou rien du tout. Pourtant, j'ai pas eu de bon rapport avec tout ce qui est.
Je vais te montrer des affiches. de combats qui n'existent pas. Mais s'ils avaient existé, tu m'aurais dit si ce ouais. match aurait peut-être pu exister ouais. à l'époque, et si tu aurais gagné ou pas, d'accord ?
Ok.
C'est parti, je prends l'iPad. Pense que tu aurais gagné à l'époque. Alors là, c'est pas le même poids. C'est amusé, là. C'est, vraiment, je les découvre. Hein. Je sais que c'est l'équipe Edito qui s'amuse à faire ça.
Ah, c'est vrai.
Est-ce que contre un Cédric Doumbé, est-ce que tu connais Cédric Doumbé ?
Oui, je connais.
Est-ce que c'est pas le même poids ? Vous auriez pas pu combattre ensemble, là ?
Non, non, ben non, non, on n'a pas pu combattre puisque c'est pas dans la même catégorie. On faisait un open weight. Ah non, il est fort.
T'as suivi son arrivée assez.
Avant, je suis en kickboxing déjà, tu sais. Non, quand même, non, il a quand même battu moult de Hollandais.
Il a une carrière longue, mais la popularité est arrivée très vite. C'est-à-dire qu'il a été connu d'un coup, vraiment.
Ben avec le MMA, en fait.
Au grand public.
Ouais, avec le MMA. En fait, le MMA a été rendu possible. Après la loi, là, et donc l'ouverture s'est faite. Mais après, après tout s'est enchaîné vite. J'ai vu les réseaux sociaux, comment que les réseaux sociaux s'immisçaient dans les sports de combat, la boxe thaï, mais surtout le MMA, bien sûr. Et c'est donc ça, là, il a eu une popularité, oui, en plus le trash talking, parce que les gens aiment ça. Le système de voyeurisme.
Avec les réseaux sociaux maintenant.
Ouais, comme le loft.
Il en joue, ça l'a fait marrer. Hein.
Ah, bien sûr.
Parce qu'il est beaucoup plus doux et calme dans la vraie vie.
Bien sûr, je sais.
Et malheureusement, il a eu, après, on tourne quelques mois après, mais une écharpe dans le pied, là.
Ouais, je comprends pas.
De quoi ? De l'avoir bloqué ?
Non, je comprends que même il puisse sentir, avec l'adrénaline, qu'il puisse sentir le pied, enfin, qu'il puisse sentir une écharpe dans le pied, je comprends. Non. Ça me met. Je reste pantois.
Ah, c'est vrai. Après, ça fait très très mal. Un bout de verre dans le pied.
Non, un bout de verre dans le pied, peut-être, mais pas une écharpe dans le pied, quand même. Non, mais je pense qu'il l'a senti, donc c'est qu'il.
Oui, il a ressenti la douleur.
Moi, je pense que même au niveau du combat, je pense que Cédric. Je parlais d'ailleurs, c'est un peu moi. Hein, Lucie Berthaud, bon, elle était une grosse, très grande professionnelle au niveau des commentaires du MMA. D'ailleurs, si j'espère la première tour avec nous pour le COF. Il m'a dit je pense qu'à un moment donné Cédric est quelqu'un qui aime tout contrôler, et à un moment donné il ne contrôlait plus le combat, et je pense que ça fait que sa sensibilité est redevenue à l'état normal, tu vois, je pense que quand t'as un écharpe dans la vie tous les jours, quand t'es avec la ligne du combat, que le mec en face, il tombe à des scuds, ou qu'il va tomber par terre, il va te chanter la messe. Non. Non, 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 une écharpe dans le pied. Non. Non, j'ai eu le dernier combat que j'ai fait en France, j'ai eu le genou qui était en train de dire bonjour à l'arrière de ma cuisse.
Après, tu disais que tu avais le bras en quatre morceaux. Peut-être que tu ressens moins la douleur que les autres aussi. T'as peut-être ce truc-là, ouais, attends, cette chance-là, entre guillemets. De...
Écharpe, come on, man. Come on. Ouais. Mais c'est vrai, il est là, donc oui, c'est factuel. Donc il a été là, et ça me gêne. Moi, je trouve ça bizarre.
Après, parfois, t'as des douleurs.
Et, oui, mais.
Tu vois, même un bouton dans le nez, oui. Parfois, t'as des boutons là qui m'ont déjà fait pleurer. Bah, tu vois, c'est déjà qu'ils font plus mal qu'un coup.
Si on te dit que t'as eu le cancer, monsieur, t'es avec un bouton qui te fait mal, monsieur, il vous reste très peu de temps, vous avez le cancer. Là, je pense que le bouton, tu t'en colles, hein.
Ouais, hein, un truc beaucoup plus gros. Ouais.
Bien sûr. Et là, c'est comme, attends, t'es un combat, t'es le mec qui est là pour te punir. Surtout par rapport à tout ce que t'as dit. C'est ça le truc, en vrai. Il y a l'équation entre tout ce que tu vas dire, Cédric et machin, et ceci, je te tue, t'es mort et tout, et le mec, il n'est plus dans le pit. Ah non, je... Monsieur, non, mais non, non, mais même ça fait. Bah, qui a raison. Pour moi, le combat, c'est la guerre. Il y a plein de choses. Il peut se passer plein de trucs. J'ai été malade en combat. Je pense que Cédric aussi. Il a été combattre en étant malade, pas en étant pas à 100% de ses moyens. Hein, parce que t'as eu une grippe 3 jours avant, ou t'as eu un. Moi, j'ai fait des combats au Japon, où j'avais été en Thaïlande comme un con. J'avais bu des liqueurs à base de glaçons. Là-bas, faut pas boire de.
Ah, c'est de l'eau.
Et ouais. Ouais, et puis donc j'ai eu un truc où j'avais 42 de fièvre, ouais, 42 de fièvre, 41 de fièvre avant de monter sur le ring, 2 jours avant. Puis on m'a mis là-bas, ils font souvent ça, au lieu de mettre des antibiotiques, ils te mettent ça en intraveineuse. Et donc une journée avant, tu vas combattre, t'étais là en train de.
d'agoniser.
Et puis on te fait des intraveineuses. Puis le lendemain, ça m'a permis de gagner. Enfin, j'ai gagné.
Celui qui a été malade et qui s'est bien battu, c'est Benoît Saint-Denis, qui a eu un staphylocoque, je crois, et qui a
pris
au dernier moment, je crois, un traitement. Il ne l'avait pas dit, d'ailleurs. Ils sont amusés à faire l'affiche aussi, je la vois ici. T'aurais aimé combattre contre un Benoît Saint-Denis ou c'est pareil, il y a une trop grosse différence de poids?
Bah là, il y a une différence de poids énorme. Hein, donc, mais oui, bien sûr. Bah non, mais,
On est fans, nous, on l'embrasse.
Ouais, moi aussi, je suis très très fan.
Un Cyril Gane, c'est plus ton poids?
Ah ouais.
T'aurais pu combattre, en termes de poids, je parle vraiment techniquement, face à un Cyril Gane?
Ouais, bien sûr.
T'aurais gagné face à un Cyril Gane?
On peut voir, comment dire, c'est... Non, mais non, c'est... On sait un peu comme... on sait quoi mourir, mais c'est... non, c'est conceptuel. Non, c'est...
Il est très fort, Cyril Gane, aussi.
Ah oui, ah, très très fort.
Grand combattant.
Très très fort, mais... Alors, j'ai mal, là, je pense qu'il s'en va dans... Il faut qu'il... On peut pas courir deux lièvres en même temps. Il n'a pas l'âge de courir deux lièvres en même temps. Non, là, il veut faire un peu de cinoche, tout ça et tout. Je dirais, Coco, finis ce que tu as commencé.
Voilà. Est-ce qu'il aurait pu avoir à l'époque un Mohamed Ali?
Ouais.
Jérôme Le Banner.
Ah bah oui, bien sûr.
T'aurais aimé?
Bien sûr. Non, moi, j'aime tous les défis. Le combat boxe.
Tu serais allé?
Bien sûr. Cyril Gane, j'aurais été. Benoît Saint-Denis, j'y vais. Bien sûr. Même Cyril Gane, j'y vais même demain. Non, parce que c'est on est français, donc.
Un Mike Tyson?
Mike Tyson, j'y vais. Tu me laisses un mois et demi, je perds un peu de gras et hop,
roule. T'aurais pu gagner?
Non, c'est... Je sais pas comment, ce genre de personne-là. Le combat, c'est la vie, tu sais. Tu peux sortir d'ici, tu peux avoir un accident.
Non, mais tu vas en tant que gagnant quand tu pars, non?
Ah, ouais, bah, non.
Dans ta tête, c'est ça que je veux dire.
Bien sûr.
Sinon, tu pars perdant, t'es foutu.
Bah, de tous.
Tu t'es fait refaire le nez?
Oui.
Comment on fait quand on est boxeur et comment ça se passe? Il rajoute quand t'as le nez comme ça?
Non, tu recasses.
On te le recasse?
Ouais.
Je vois pas.
Ah, ouais, moi, il m'arrive rien. Donc j'étais, c'est la femme de Clovis Cornillac. Son père, c'était, c'est Louis qui est à la retraite maintenant. Il était donc grand plasticien au niveau du nez, enfin du visage, à Marseille. Donc il me dit, donc quand tu vois mon nez, oh putain, bon, j'avais une forme de virgule Nike. Hein. Il y a un point qui était comme ça sur le côté.
Oui, tu l'as eu comme ça, c'était le maximum ou t'as eu une période encore plus?
Encore pire.
T'es pire après?
Ouais. Encore un petit peu, ouais. Mais là, ça dépend de l'angle.
Ouais, c'est ça.
Là, ça va encore pour rien. Mais non, mais vraiment, ça faisait... Oh. Et là, non. Et donc, quand je me fais opérer, il croit que je suis endormi. On est là, je suis face à la mer, super bel hôpital. Je suis là comme ça, puis la dame de chambre croit que je suis... Enfin, c'est même pas la dame, c'est la deuxième main du docteur. Je crois que je dors. On prend le chariot. Puis je vois qu'elle touche les objets. Je fais ça. Je fais. Ah, oh, bah, c'est pour moi, celle-là. Elle dit, ah, oh, vous n'êtes pas encore endormi? J'ai vu, il y avait un truc comme ça qui me met dans le nez, avec un burin. Comme
ça, ouais.
Donc après, bon, c'est un mi-tour d'heure, heureusement, tu vois. Elle me dit, oui, c'est pour vous, mais vous ne devriez pas voir ça. Oh, c'est brave. C'est brave, je sais qu'ils vont me décaloter le nez. En fait, non, donc, le lendemain, donc, au réveil, donc, il m'a dit, j'ai jamais eu un patient comme ça. Obligé d'être, normalement, je fais tout seul, là, j'étais obligé d'être aidé par mon assistante à tenir le burin pour mettre des gros coups de marteau, tu sais.
Ah bon?
Ah ouais. Parce qu'il y avait tellement de calcifications au niveau du nez qu'ils ont pété 3-4 fois. Donc, ils m'ont mis deux grosses tiges, une que j'ai gardée pendant une semaine, l'autre pendant 3 jours. Donc j'étais sur Saint-Tropez, je refusais les aérosols avec Marseille pour me faire enlever le drain. Et le drain, j'avais l'impression d'avoir le nez sur le cul d'une poule toute la journée, tellement ça sentait la merde.
Putain.
Ah ouais, mais un truc comme ça, je retirais le truc. Et après, quand tu...
Ah, tu respires.
Oh là.
Parce que tu ne pouvais plus respirer, ah, t'en écrasé.
J'ai combattu pendant 10-12 ans avec une seule narine.
Et en respirant que par la bouche, quasiment. Putain. Ce petit combat contre Emmanuel Macron qui fait de la boxe. T'as vu son entraînement ou pas quand il s'entraîne, qu'il met des photos, etc. Tu suis?
J'entraînais. Je participais aux entraînements de Majid Nassa, qui est mon entraîneur, à Joe Homer et qui entraîne Edouard Philippe.
Donc tu t'es amusé à faire des combats ou juste.
Non, j'ai sparingué des fois avec Edouard. Ouais.
Et alors?
Monsieur Philippe.
Edouard Philippe.
Edouard Philippe premier.
Philippe, qui est le maire du Havre et qui était Premier ministre.
Hein. Il est assidu, sérieux.
Il fait beaucoup de boxe, lui, hein, il adore
ouais,
ça.
Ouais, il adore ça.
Il est bon?
Il est bon, il vient bon, ouais.
Mais t'es obligé de faire doucement quand tu joues avec lui, quoi.
Faut doucement. Non, mais même des fois, il prend ça sérieusement.
Il t'en a mis deux, trois?
Deux, trois, je laisse aussi prendre parce que. Lui, s'il commençait à me demander de prendre le micro devant l'hémicycle, je pense que je raconterais pas mal de conneries. Quand
même. Ouais, évidemment. Hein, non.
Je suis là, des bons papiers. Il commence à devenir bon. Ouais. Parce qu'ils sont en train de tout, deux ou trois fois par semaine, je crois. C'est tôt le matin.
Et après, en 2017, tu as entraîné Francis Ngannou.
Ouais.
Aussi, donc tu as eu une bonne partie où tu as entraîné Édouard Philippe, tu disais, etc. Ouais. Plus facile quand on a été un grand combattant, peut-être un bon entraîneur, ou ça veut rien dire?
Oh, je pense que ça veut rien dire. Je pense que tu as des très bons combattants qui seraient de piètres entraîneurs.
Ah, c'est vrai?
Ouais. Je pense qu'il faut se remettre en question.
C'est pas les mêmes qualités?
Non, il faut se mettre en question. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis à la pointe. Enfin, j'essaie toujours de regarder ce qui se fait. Même des fois, je comprends pas. Donc, je veux comprendre. Je suis pas dans la croyance. Moi, je suis dans le savoir. Moi, ça, c'est une lettre de noblesse. Ça, je veux c'est pas croire. Je veux savoir. En ce moment, je suis beaucoup sur la préparation physique, les techniques et tout. Même en boxe, je change des choses. Chose que j'aurais voulu savoir avant, bien sûr, qui m'aurait aidé. Mais bon, c'est comme ça. Donc je pense qu'un bon entraîneur, il faut être à la page.
En 2017, j'ai vu un article, en tapant actualité, etc., machin, c'est remonté sur un article de 2017 où tu as sauvé un chauffard, Hans.
Ouais, Hans, oui.
Tu peux expliquer ce qui s'est passé?
Bah, le mec, j'ai pas vu ça, mais c'est ce qu'on m'a dit après. Donc il était un peu bourré. Où il était en sous-occupé, enfin, il se barrait dans une rue et il avait failli renverser une personne, dont un gars, une autre personne avec un gamin, et donc il a vu qu'il avait fait le con, il a voulu se barrer rapidement dans une rue piétonne, et là forcément il y avait plein de gens et tout ça, donc il s'est fait arrêter, les gens l'ont attrapé, et moi j'ai pas vu tout ça, donc sinon j'aurais peut-être rien fait, mais là, quand j'ai vu, ouais, non, quand même, tu fais le con, assume. Hein, donc là, bon, quand je vois, enfin, même ma main, enfin, maintenant, quand les gens, là, ils étaient à 5 dessus, sur une personne, non. Non, ça, non. Je ne supporte pas. Quand là, j'ai vu un gamin qui s'est fait tuer parce qu'il avait conversé avec sa sœur.
Ah oui, oui.
Il était à 12 dessus. Quel héroïsme d'être à 12 sur 1. C'est des hyènes.
Exactement, c'est bande de hyènes. C'est ça.
Et moi, j'ai vraiment des cafards. Des merdes.
Et là, t'as sauvé cet homme?
Ouais.
Des cinq.
Ah bah, ils étaient.
Mais des cinq qui avaient raison.
Des cinq qui avaient raison.
Parce qu'ils avaient. En fait, lui, il avait frôlé un enfant. Ça, c'est compliqué.
Donc,
quand tu sais après.
Je sais après, je. Sorry. Non, alors, il a dû prendre une menace. Non, je dis, dans ce que toi, tu. Bah, faut assumer. Hein.
Et là, t'as dit, qu'est-ce que t'as fait?
J'ai poussé le mec, j'ai dit, tu vas te calmer, je l'ai mis au sol, l'autre, je l'ai attrapé, j'ai dit, tu restes dans la voiture, en attendant que les flics arrivent, tu vois.
Et tout le monde s'est calmé?
Tout le monde s'est calmé. Après, les gens sont venus me demander des autographes.
Ah, ils t'ont reconnu?
Ouais. C'est marrant, ce truc de reconnaître, parce qu'à l'époque, nous, c'était karaté Bushido, Eurosport un peu. C'est marrant, je trouve ça même encore bizarre, même des fois, dans le train, dans le métro.
Pourquoi qu'on te reconnaisse, c'est ça?
Ouais, je trouve ça bizarre.
Tu manges un régime particulier pour rester toujours aussi solide, etc.
Pour moi, c'est bon. C'est comme. Je suis un peu comme un religieux, tu vois. Comme un moine. Je fais très très attention. Je me fais un cheat day par semaine.
Un mauvais repas?
Ouais, un mauvais repas, cheat day, voilà, ça. Et sinon, non, je fais très très attention.
Mais c'est-à-dire, tu manges quoi, par exemple? C'est intéressant pour ceux qui veulent faire attention.
J'adore maintenant faire à manger, donc je fais. Mais bon, non, je fais pas des trucs avec de la viande, du poisson, je varie beaucoup, légumes de saison. J'ai un pote qui s'appelle Philippe Echtebest, donc que j'appelle de temps en temps pour savoir quelques petits conseils. Je fais beaucoup de plats revisités. Là, il y a la soupe feu, toi, la soupe la mienne, je refais vraiment. Moi, je vais pas faire un bouillon, je fais vraiment une sauce. Donc, je la fais réduire au maximum. Donc je fais très très attention, les hydrates de carbone, les fruits. Là, en ce moment, je suis sur une soupe japonaise qu'on appelle le chonkonabe, c'est la soupe du sumo. Donc dedans, je mets du tofu, du riz, des champignons que je fais macérer, que je fais mijoter pendant des fois 12 heures. Je fais attention.
Tu fais quand même très attention. Mais de toute façon, il paraît que le sport, c'est 50% et l'alimentation, c'est 50%.
Non, le sport, c'est... C'est beaucoup la tête, beaucoup le mental, le psyché, ça, beaucoup, beaucoup. Et non, c'est pour moi, honnêtement, je trouve que c'est 70% la bouffe.
Ah bon?
Ah ouais. Si tu mets de l'essence dans une voiture diesel, ça marche pas.
Oui, donc il n'y a pas. Mais tu fais toujours beaucoup de sport quand même?
Tout le temps, toujours. Toujours.
Et tu fais des pompes, tu dis parfois avant quand il y a des gens qui arrivent et tout.
Ah ouais, alors, fait un vrai, peu... Parce que j'étais avec des mecs, moi, tu sais que j'étais beaucoup. À l'époque, il y avait une salle de musculation, la salle de boxe était à côté d'une salle de musculation. Donc les mecs, ils aimaient cultiver le corps. Il y avait une espèce de religion autour de du bodybuilding. Donc voilà, donc on voyait les mecs, tu sais, bon, voilà, j'aime bien les. Moi, je me verrais jamais avec des poils partout, du cresson sous le bras. Non, il y en a qui aiment, tant mieux, ou qui sait comment sentir. Faut ce qu'ils veulent. On avait toujours vu ça, c'est dans le sauna, les mecs. Non, je trouve que c'est des choses que.
Et pour parler d'argent, juste rapidement, ouais. Mais c'est histoire de comprendre. Après, au Japon, tu disais tout à l'heure, je t'ai pas coupé, mais tu disais, j'étais aussi triste d'avoir perdu l'argent.
Ouais.
Au K1, quand tu gagnes, tu gagnais évidemment plus quand tu étais en première, qu'en deuxième position, ouais. Troisième, mais t'avais une ligne. Ça s'élevait à quoi une prime quand tu gagnais le K1 pour ceux qui ont gagné
700 000 euros.
Ouais, donc
20% du 20% de l'État prenait 20% au Japon. Après, il y a une loi qui fait qu'en France, qui n'a jamais d'heure, qui est encore, parce que c'est le Japon, mais normalement, tu payes 20% au Japon et tu ne payes pour rien en France, comme en Hollande. Les mecs, tu donnes le papier comme quoi tu déclares 20%, l'État hollandais. Mais la France, elle, veut reprendre 20%, parce qu'il y a un texte de loi qui est mal traduit en du français au japonais. Donc l'Europe, non, moi ils m'ont fait chier les impôts, même encore maintenant. Ouais.
C'est marrant, j'ai lu, j'ai tapé rumeurs et tout, c'est drôle, les rumeurs un peu drôles à chaque fois. Et ils disent que ta fortune s'élèverait à 215 millions d'euros. T'as vu des articles ou pas, non ?
Non, du tout.
Ah, t'as toujours des chiffres comme ça.
Non, j'ai plein d'impôts au cul, non, genre, tout est.
Ça m'a pas fait marrer, d'ailleurs, je me suis dit, tiens, si c'est vrai, c'est cool pour
ça
toi.
C'est vrai, ouais,
c'est de bonnes nouvelles.
On donne un petit peu. C'est fait un double. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus pour la suite ? Toi qui fais du cinéma, avec Jean-Claude Van Damme, on va te voir dans Le Jardinier.
Ouais.
Tu t'éclates. De quoi t'as envie que t'as pas encore fait aujourd'hui ?
Non, de voir les gens autour de moi heureux. Ouais. Ouais, je trouve que. Ouais. C'est un peu un adage un peu à la con, mais non, mais. Ouais, même que la terre respire un peu. Ça serait bien.
Tu vas jouer dans Le Jardinier,
ouais.
avec Jean-Claude Van Damme,
Michael Youn.
Avec Michael Youn, Rainer Le Breton, etc. Et il y a aussi un jeu de combat en réalité virtuelle qui va être disponible aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors donc c'est un casque VR, voilà. Donc avec la réalité virtuelle, donc on a été voir, donc on était à Rennes. C'est un projet qui m'est venu par Maginassa et Olivier Fabre. Donc deux personnes un est mon entraîneur, donc lui c'était facile. L'autre était dans tout ce qui est ramener l'internet haut débit dans les grandes stations de ski, donc qui a fait une bonne fortune là-dedans. Et il avait envie de créer le jeu. En fait, ça fait 3-4 ans qu'on est là-dessus. On était à Rennes dans l'université pour la réalité virtuelle et tout ça.
Donc tu mets ton casque VR et tu auras tes mains.
Moi je vais te donner la leçon, tu vois. Je te donne la leçon, et en vraiment, c'est vrai, quoi.
On te verra.
Ouais, carrément. Et je te donne la leçon, je te donne, oui, vas-y, fais comme ci, comme ça, machin. Percute du droit et tout, super, tu peux mieux faire, voilà. Et après, donc, tu vas pouvoir jouer aussi en ligne, avec quelqu'un du Japon, quelqu'un des États-Unis.
Après, tu peux jouer en VR.
Et on va faire les compétitions. On va faire les compétitions l'an prochain au Japon, et en France, le VR avec ma fédération UFSC, parce que j'ai créé aussi une fédération du kickboxing pour promouvoir aussi le kickboxing, surtout amateur, parce qu'après mon professionnel ils vont aller en MMA ou en kickboxing, mais je voulais vraiment mettre l'accent avec Anthony Xera sur la fédération de kickboxing. Et puis j'ai aussi mon organisation, le KOF, King of Fighters, donc compétition internationale de MMA. Donc voilà, donc.
Et tu vas refaire un combat le 30 juin,
ouais, à Kumamoto.
À Kumamoto, au Japon. Un combat caritatif, cette fois. C'est pourquoi ?
C'est un mec que j'aime bien, un japonais qui s'appelle Nasu, qui était là quand mon ami a été en prison au Japon. Donc, il était vraiment là, beaucoup. Et donc, il a besoin d'une tête d'affiche pour combattre contre un ancien mec qui a 40 ans, qui revient. Et... Donc, il m'a dit, est-ce que tu veux faire ça ? J'ai dit oui, mais on donnera l'entièreté de la monnaie, de la somme... à des jeunes là-bas, à Kumamoto, même pour ouvrir une salle, pour les gens qui comprennent. Ils m'ont dit, OK, pas de problème, go. Let's go.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci à toi.
C'était un plaisir de t'avoir. Okay. Je te mets tes réseaux en cliquable en dessous. Sur quoi on peut te suivre ?
sur Instagram.
Sur Insta, ouais. T'es souvent sur Insta?
Ouais, pas souvent, pas souvent.
C'est vrai?
Ouais.
Bon, je vous mets quand même le lien. Allez le suivre. Jérôme Le Banner, je vous mets le lien cliquable sous la vidéo. Merci d'avoir pris le temps. Franchement, on a fait une super émission, bien longue comme on aime. J'espère que ça vous a plu chez vous. Merci à tous ceux qui l'ont préparé aussi. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux à notre chaîne YouTube. Légende, vous pouvez commenter la vidéo, la liker aussi, ça nous aide sur le référencement. La petite cloche aussi pour être au courant des prochaines. Tous les mercredis, vendredis et dimanches, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup de nous écouter en podcast audio aussi sur Spotify, Deezer, Google Podcast et Apple Podcast. On est numéro un des podcasts en ce moment, aujourd'hui tournage. Donc merci mille fois de nous retrouver. On est vraiment trop content d'être là trois fois par semaine avec vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.
Légende Podcast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Vous venez d'écouter un épisode de Légende. Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende, L-E-G-E-N-D. Et si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et pensez à lui mettre 5 étoiles. Merci.